Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique. Numérique.
Studio 404, présenté par l'âme UA.
Bonjour chers auditeurs, c'est le retour de Studio 404. Enfin ! Dites donc, c'est la fin du mois de septembre.
Il était temps.
C'est une rentrée complètement décalée, on se croirait à la fac. Si ça se trouve, on va finir mi-avril, l'année scolaire, comme des gros glandus. Du coup, ça fait une longue absence. Hein. On a depuis le mois de juin, en fait. Après, on a eu plein de rendez-vous. On pensait manquer. On pensait enregistrer en été. On l'a pas fait. On pensait enregistrer début septembre. On n'a pas pu le faire. Donc, je me retrouve avec des gens que je ne reconnais plus. Voilà, je suis avec quatre chroniqueurs, un réalisateur qui me rappelle vaguement quelqu'un. J'ai face à moi une personne assez imposante, un peu basanée, qui à mon avis
j'ai perdu mon bronzage.
Je pense à un immigré type maghrébin, je sais pas.
Oui.
Côté de lui, je crois que c'est quelqu'un de la génération Y avec une petite barbe. On lui a pas fait la vanne depuis 2 ans.
Totalement.
À côté une jeune fille qui check ses privilèges. Enfin bon, voilà, sauf sur le trottoir. Et à côté un nerd avec une barbe et un t-shirt. Ah non, je crois que c'est un t-shirt avec une blague, mais même pas. C'est un t-shirt I love New York. Non, si. C'est effectivement un t-shirt geek avec un gag. Ce sont mes quatre chroniqueurs qui sont avec moi et qui nous rejoignent, Ghislain et moi, mon réalisateur. Ça va Ghislain ?
Ouais.
Lui je le reconnais, Ghislain. Qui sont en face de moi. Daz, comment ça va ?
Ça va très 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 bien.
T'as passé des bonnes vacances ? Tu es ressorti renforcé de cet été ?
Ouais, renforcé on va dire ça, ouais. En fait je dirais 4 mots, Windows 10 et Apple Music. Voilà, donc j'ai pesté pendant 3 mois.
Voilà. C'est bien, tes vacances ressemblent à toute ton année. Sympathique,
c'est sympa.
C'était une belle pause. À côté de toi, Sylvain. Comment ça va, Sylvain? Alors toi, tu as fait des vacances spéciales.
Hein. Ouais, épuisé par mes vacances, mais tellement riche de l'intérieur.
T'es sponsor par Volvic. Un pubard s'éteint, un être...
qui n'est pas sponsor aujourd'hui?
Un nouveau Sylvain.
Je ne sais pas, Fib, qui n'est pas sponsor aujourd'hui.
On se demande. Hein.
Et toi, Mélissa, comment ça va?
Écoute, un bel été, une belle rentrée, je vais vous en parler, ça va être très bien.
C'est vrai. Et à côté de nous, donc... un chroniqueur qui peut se tenir en 4 positions différentes. On peut le mettre en mode travail. Quand j'ai envie de le discuter, de consulter juste, il va me dire je vais le mettre en mode tablette. Et lorsque j'ai besoin d'être un peu productif, je peux le plier en mode tente. C'est Fibre.
Oui.
Spectre.
Bonjour.
360 Tigre. Comment oui, ça va?
Ça va très bien.
T'as pas sympa l'été, dis-moi.
L'été était pas mal.
La rentrée un peu plus dure.
La rentrée était sèche, ouais.
Alors pour vous les auditeurs qui nous ont pas suivis, Fibre a été suivi par une marque et qui en ont fait une sorte d'opération blogueur, native advertising, etc., etc.
Très sale.
Qui a tourné un grand numéro sur Twitter. C'était assez rigolo. On s'est bien marré.
On s'est bien marré quand même.
On n'a pas été les derniers à taper sur Tik pendant qu'il était à terre. Donc c'était plutôt rigolo. Je pense que ça va.
La bonne camaraderie.
Je pense que tu vas en bouffer pendant un trimestre. En tout cas, on est très très content. Je suis très content de vous retrouver, la petite équipe, et on est très content de vous retrouver vous, les auditeurs. On espère que vous apprécierez. On va commencer tout de suite avec une FAQ.
FAQ.
Vous étiez aussi très impatient. Hein. Vous aviez plein de FAQ du coup pour cette émission de rentrée. Et il y en a une qui m'a fait sourire parce qu'en fait, ce sont deux FAQ, deux questions qui sont tombées sur Twitter coup sur coup. Cyril K nous demande quelle sera la prochaine étape de l'indignation, et juste après, Julien P nous demande l'indignation n'est-elle réelle que si elle est tweetée. Donc là, je pense qu'on parle encore une fois de cet internet. Est-ce que c'est un internet français ou est-ce que c'est un internet des réseaux sociaux qui aime bien s'indigner de tout?
Il est français, hein, il est très français, il est dans ma timeline. Hein,
qui parfois peut-être trompe son ennui avec la colère et l'indignation et les débats pour ensuite passer à autre chose.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette petite tendance à l'indignation? Est-ce qu'on l'indignation n'est réelle que si elle est tweetée, et quelle sera la prochaine étape de l'indignation?
Eh bien oui,
Daz.
Elle n'est réelle que si elle est tweetée.
Oui.
Puisque si je ne vois aucun tweet indigné, je considère que personne n'est indigné.
D'accord.
Voilà. Donc, est-ce que c'est,
Est-ce que c'est le résultat d'un climat qu'il y a eu et du coup c'est comme ça que je pense? Moi, je pense que je suis complètement influencé par ce truc-là.
D'accord. Donc t'as l'impression qu'en fait il y a beaucoup d'indignation parce que sur Twitter on râle beaucoup.
Initialement, la journée de l'indignation c'était le vendredi.
Ouais.
Après, moi, on m'est tombé dessus. Je m'en rappelle, c'était un lundi. Là, j'ai vu que les cartes avaient été redistribuées et qu'on pouvait s'indigner tous les jours de la semaine, mais que de la semaine, parce que pour le week-end, c'est il faut quand même attendre le lundi, tu vois.
Non, mais tu sais pourquoi on s'indigne pas le week-end? Alors. Parce qu'il y a moins d'audience.
Tu crois que c'est ça? Tu crois que c'est bassement, calculateur?
Non, mais je m'indigne, donc je suis.
C'est-à-dire
que.
Il y avait Nadine Morano le week-end dernier.
Oui.
Non, mais ça a pas marché. Ça a pas marché. Moi, dans ma timeline, zéro. Non, dans ma timeline.
Mais tu suis 100 personnes. C'est normal.
Oui, ben n'empêche que ces gens-là ne se privent pas pour me tomber dessus à bras raccourcis, ok?
Zéro. La merde en même temps.
Oui, ok. Admettons. Zéro réaction.
Juste pour creuser mon idée et faire une réponse formelle. Quand t'as rien à dire, tu peux toujours t'indigner.
D'accord. Voilà. Donc c'est là où tu reviens sur ton idée, on s'indigne pas le week-end, parce qu'en fait les gens ont besoin de s'indigner
pour exister
pour se faire remarquer.
Voilà. Et puis ça permet de produire du contenu sans avoir trop à réfléchir.
La critique est facile, Fibre, c'est ça. C'est ça. C'est facile de râler en fait.
Finalement. Non, oui, c'est facile. C'est pas disons que en plus non seulement c'est du contenu facile à produire, mais en plus il est moralement bon.
D'accord.
Donc il y a pas de prise de risque.
Mélissa, toi donc t'étais pas d'accord?
Non, parce que ça me saoule de m'indigner sur Twitter. Or, je m'indigne dans la vie. Ah. Donc, ça veut dire que l'indignation existe.
Mais voilà. Tu sais que tu t'indignes si personne te dit ouais, d'accord, c'est vrai.
Mais en fait, je m'indigne avec moi-même.
Plus ça.
Et ça me suffit, j'ai pas besoin d'aller le dire sur le samedi soir en regardant on n'est pas couché.
C'est juste que tu nous reparleras sur ta chronique. Du coup, t'as pas besoin d'internet pour t'indigner. Sylvain, enfin.
Moi, je commence à en avoir ras-le-bol en fait.
Parce que je t'indigne là.
Je dénonce.
Sur Twitter, non mais sur Twitter, ça devient insupportable. On peut plus rien faire quoi.
Tu t'indignes contre les indignés.
L'humour indigne tout le monde, donc ouais. on peut plus faire de blagues.
T'as checké tes privilèges?
Ouais, voilà, je peux même pas m'exprimer sur le sujet puisque de toute façon, je suis un homme blanc, donc je ferme ma gueule. Quoi. Je ferme ma gueule.
Bon ben voilà, l'indignation partout, liberté du part finalement.
Ouh, tu vas loin quoi.
Ça va indigner des gens ça. Allez, on commence la première chronique et ce sera Mélissa qui ouvre le bal.
Sujet numéro 1.
Disparaître d'internet pour les vacances, devoir réapparaître pour la rentrée.
Oh, c'est dur.
Après 6 ans les mecs, que j'avais pas pris de vraies vacances cet été, j'ai enfin eu les vraies vacances d'été.
Ah.
Celles en mode détente, on va à la plage, on boit, on mange, enfin vous voyez quoi. Est-ce que j'ai arrêté Internet? Non, je vous l'expliquais déjà il y a 2 ans. Je trouve ça débile en fait de se déconnecter complètement en fait, et c'est aberrant juste parce que par exemple, si vous voulez échanger des messages avec vos proches ou si vous voulez juste ne pas tomber dans le resto à touristes, vous avez un peu besoin d'Internet.
D'accord. Donc t'es en vacances sans disparaître.
C'est ça. Mais j'ai quand même un peu disparu par rapport à mon activité quotidienne habituelle quand je suis au boulot devant mon ordinateur. Pas de tweets, pas vraiment de Facebook, quelques photos Instagram, un peu la carte postale des années 2010. Pas grand chose à penser, c'est Daz qui nous en parlera. Mais j'avais enfin le temps de lire ces longs articles que je vois passer en sachant que je ne pourrais en lire que 1 sur 1000. Et puis je suis rentrée. C'était dimanche 7 septembre, il n'y a pas si longtemps. Pourtant, j'ai l'impression que c'était déjà il y a 6 mois. Il faisait 19 degrés à Paris, cette pute. Il fallait que je remonte 15 jours d'Internet, que je fasse mes devoirs de vacances, en somme, et que je ne sois pas à la ramasse sur la dernière polémique, la dernière indignation, que je relise tous les échanges sur les photos du petit Aylan Kurdi, que je sache que Libé avait un nouveau site Internet dans les tuyaux, de la bonne popote de journaliste qui ne sert à rien, que je sois à l'affût du bon lien, c'est aussi mon métier pour Slate. Je pouvais m'en foutre de Daniel Morano, mais il fallait que je redevienne Internet 24 heures sur 24, après avoir été Internet Light pendant 1 mois.
La grosse mise à jour.
C'était chaud. Comme Windows 10. Bref. Ce que les réseaux sociaux, en fait, ont changé, c'est que la plupart de ceux qui étaient sur le web, quand pas grand monde y était, c'est-à-dire il y a genre 6 ans, c'est qu'on s'entendait davantage. Là, on doit exister plus et mieux, et si ça peut être un plaisir, en fait, les années passées, les 6 ans, là, dont je parle, la saturation de l'espace rend la tâche vraiment, vraiment fastidieuse. C'est ce que vraiment j'ai ressenti quand je suis rentrée de vacances.
Ah ouais.
Il faut toujours se distinguer. Même l'âme, toi qui me suis et qui suis pas grand monde, dit ne pas avoir vu mon activité de rentrée. Donc tu vois, je peux même pas lutter parce que j'essaye mais j'y arrive pas. Donc, tu me vois pas.
Il y a carrément une quantité en plus, il faut pas exister, mais en
et
quantité.
Après c'était même physique, je savais même plus comment taper sur un clavier assez vite, comment photoshopper assez vite, comment copier-coller assez vite, comment penser. Ah non, ça va, j'avais encore pensé. C'est tout le discours que déroulait un blogueur iranien en juillet dernier, on n'était pas là pour en parler à l'époque. Il avait été envoyé en prison pendant 8 ans pour ce qu'il écrivait sur son blog.
Des vraies vacances aussi pour lui. Hein.
Et
Attention.
Et à sa sortie, en fait, quand il a voulu rebloguer, il a fallu qu'il fasse de la pub à son billet parce que tout le monde s'en foutait. Alors qu'avant, dès qu'il postait un truc, il avait genre 1000 commentaires.
Et du coup, ça faisait. Comme Monsieur Lame.
Son billet de blog, ça faisait un peu ouin ouin, putain, j'en ai marre des likes, je veux qu'on me lise, machin, mais il y avait du vrai, c'est-à-dire qu'on l'entendait pas, alors que le mec avait un truc intéressant à dire, il venait de sortir de prison, il était iranien et il écrivait plutôt pas mal. Alors j'ai passé, moi, mon, j'étais pas iranienne, hein, j'ai passé une partie de mon dimanche soir à lire des articles, à remonter des timelines, j'ai pas voulu tout savoir, je me suis dit que l'information viendrait à moi. Je commence tout juste après 3 semaines vraiment à reprendre le rythme que j'avais avant de partir. Et puis surtout, il y avait un truc, c'est que j'avais plus envie d'exister, quoi. J'avais plus envie d'être
T'es
là pour être
envie d'exister.
Là. Ouais, un peu.
Là, c'est Mélissa Emo, là, avec Mélissa qui nous parle.
C'est la séquence nihiliste de cette chronique. Non, j'avais plus trop envie d'exister. J'avais pas vraiment grand chose à dire. J'avais pas envie de chercher le bon mot, ni d'essayer à tout prix d'exister dans la masse. Sauf que bon, c'est aussi un peu une part de mon boulot de trouver le meilleur d'Internet et de le rendre accessible au grand public.
Les meilleurs titres.
Hashtag journalims. Que ce soit pour le site que je bosse ou que ce soit sur mes comptes Facebook, Twitter, Tinder. Non, je déconne. Quoique.
Tu cherches le bon mot sur Tinder aussi.
Bref, en août, quand j'étais en vacances, je voyais les politiques qui étaient pas là, surtout les éditorialistes ou les tweetos indignés qui étaient aussi moins là. Franchement, ça donnait un internet, mais vraiment très calme. T'avais trois tweets à lire à 8h du matin. C'était génial. Et c'est du coup, j'avais plus envie de parler. Je lisais juste des articles. Et là, du coup, je m'y remets. Je sais exactement ce qui va se passer, comment l'indignation va monter. Comment le truc, et j'ai même plus envie de m'exprimer au milieu de tout ça, parce que de toute façon ça sera dans une espèce de rouleau compresseur où personne verra rien. Donc là j'ai l'impression d'être une vieille conne à ce niveau là de la chronique, hein. Mais en fait c'est un peu l'internet d'aujourd'hui, l'internet des réseaux sociaux, celui où il faut faire la pom-pom girl.
Ah bah oui,
surtout c'est quand bon. T'as un truc vraiment très très intéressant à balancer, là t'as vraiment besoin de faire beaucoup la pom-pom girl. Mais en fait là je suis un peu dans une phase où j'ai envie de revenir à celui où je découvre des trucs, où la fameuse sérendipité de si chère à Sylvain, qui m'apprend où j'ai pas à réagir, à aimer quelque chose sans le liker. C'est aussi à mon avis ce qui explique en fait le boom des newsletters, le bon vieux truc des newsletters,
le reboom des newsletters. Voilà.
Parce que tout le monde en fait en a marre, veut juste que la bonne info vienne à lui sans avoir à chercher au milieu du bruit et de l'indignation. Donc je crois que je vais me plonger pour un temps dans cette activité. Pour mon boulot, ça va me servir. Pour mon internet, ça va me servir. Et mine de rien, pour faire ça, je dois réapprendre à faire ça.
Ah, carrément. Donc Mélissa, tu es revenue de vacances avec des, j'allais dire de la barre, mais c'est un peu dur, mais en tongs, en
mode... bronzage, ouais.
Voilà, en mode... Oh là là, j'ai pas envie de me remettre dans le rythme. J'ai surtout pas envie de devoir me rebattre pour résister sur la grille d'internet, là.
Ouin, ouin,
sur,
ouin,
sur le radar, ouin. Sur le radar des autres.
Ouin, non, mais, ouin, ouin.
Ouais, mais 200 000 followers.
C'est vrai.
C'est vrai. Elle a 200 000 followers.
Mais alors,
followers.
Non, mais j'ai 200 000 followers, je suis obligé de parler.
Justement, c'est intéressant si, mais quand, lorsqu'on a une grosse communauté qui nous suit, beaucoup de gens, on a peut-être, du coup, une pression de devoir, leur fournir du contenu, de leur fournir des avis, leur fournir des bonnes petites phrases, comme dit Mélissa.
Le fameux syndrome du post-blog qui dit « Je n'ai rien posté depuis un mois, mais ça va bientôt revenir. »
Salut
mais, les loulous.
Non, mais sauf que Mélissa, elle ne s'en excuse pas. Voilà. Mélissa est redevenue un peu passive, on va dire. C'est ça?
Ouais.
Et ça lui va très bien. Est-ce que vous avez ressenti un moment, enfin, lorsque vous êtes loin de toute votre activité publique sur Internet, c'est-à-dire ce que vous partagez, ce que vous écrivez, etc., ce pourquoi vous vous indignez, est-ce que parfois vous dites... Ah, il faut qu'à un moment je poste un petit truc pour juste pour dire je suis là, genre un petit bip sur le radar, quoi. Daz.
Mec,
oui,
je suis chez Free. Voilà, donc moi toutes les vacances de toute façon sont de base complètement déconnectées. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet.
Non, mais t'as pas. Est-ce que quand tu es parti loin, ou est-ce que lorsque t'as été inactif ou passif, est-ce que tu te sens à un moment le besoin de dire bon, ok, faut que je poste un petit truc, ou je partage un petit lien histoire de dire je suis là, je suis toujours présent, etc.
Non,
ou
non, franchement, perso, non, je m'en fous. De toute façon, enfin, j'ai pas de ligne éditoriale, donc j'en ai rien à foutre.
Non, c'est pas une éditoriale, c'est juste le fait d'exister sur Internet.
Le principe de voilà, enfin, déjà j'ai 12 followers et demi, il y en a 3.
Non, t'as
je
passé
connais.
Les 1000 là, attends, c'est la célébrité.
Oh, c'est mignon.
Les 2000.
Oh,
les
2000.
Attention, dans 10 ans, je suis à votre niveau. Non, mais voilà.
Dopé ou pas?
Zéro truc, enfin, zéro guideline,
donc,
en fait.
Tu sens pas de pression.
Non, bah non, ouais, bah okay. Non. Je vois pas pourquoi je m'en mettrais, en fait. C'est pas le but.
Parce
hein.
que, mais ça l'expliquait très
plus,
bien, on a une pression
pas,
aussi.
Lui, c'est pas son travail, donc, il a pas besoin d'être là.
Non, mais
quoi.
Ton travail, toi, c'est trouver les URL des articles de Slate, et pour ça, franchement.
Putain, mais saloperie. Va mourir.
En tout cas, c'est un très gros taf. pour le reste, faut pas se mettre de pression. Si tu te mets une pression, ça va se voir. Et si ça se voit, les gens vont pas liker. Et si like
pas,
t'auras
pas
de lecteur. Et si t'as
pas
de lecteur, t'es au chômage.
Moi, du coup, je suis revenu comme
le
j'avais
fait
envie
d'y
de revenir.
Penser, c'est se mettre une pression.
Ah, bien sûr. Moi, j'y pense.
C'est comme, il faut pas avoir peur des chiens, sinon ils te mordent, c'est ça?
C'est ça.
Okay. Sylvain, toi, t'avais l'air d'être pas entièrement d'accord avec ce que disait Daz, du coup.
Non, parce que mais pas pour c'est pas une pression sociale d'exister ou quoi, c'est qu'il y a un petit manque à un moment donné de pas avoir un petit Fab ou un petit Arte ou un petit truc, tu vois.
Bah, oui, bah, c'est une sorte voilà. De
ouais, c'est une sorte de pression, mais c'est
parce
plus
que c'est
un
une pression, est-ce que c'est une sorte d'addiction
c'est
aussi.
C'est plus, je suis en train de taper ma veine, vas-y, je vais poster un petit Instagram quand même, ça fait longtemps que j'ai pas eu des likes, tu vois.
Ouais.
C'est plus dans ce genre là. Et d'ailleurs, moi c'est complètement l'inverse de Mélissa, depuis la rentrée là, je reprends goût à Twitter.
D'accord.
J'ai genre réinstallé TweetDeck, j'ai plein de trucs, je fais du multi-compte, machin et tout. Ça y est, je suis revenu dedans quoi.
Et ça te fait plaisir.
Mais t'as mis combien de temps?
Ça me fait plaisir.
T'as mis combien de temps à revenir quand même? Parce
que ça faisait au moins 6 mois, 1 an que
moi, je peux pas
j'y allais tranquille quoi.
Ouais. Là du coup tu te dis j'ai envie de redevenir un peu actif, de résister un peu.
Ouais.
Sur toi ton identité propre ou sur d'autres comptes ou d'autres
non,
choses?
Non, sur mon identité propre.
D'accord.
Mais arrête, ouais. Tu likes que des posts de meufs.
C'est faux.
Là, on parlait des gens qui produisent du contenu.
C'est totalement faux. On parle pas forcément de gens qui produisent du contenu, on parle de gens qui disent juste j'existe. Mais le non, fait de retweeter
ben,
quelque
ça,
chose. Non mais le fait de retweeter quelque chose, juste le fait d'envoyer des signaux. Comme disait Mélissa, la rentrée, c'est de réexister, en fait, après avoir disparu un petit peu.
Non, mais tu vois, par exemple, il y avait l'annonce de la NASA cet après-midi, j'ai énormément tweeté dessus parce que ça me faisait plaisir de partager des choses. Les gens regardaient pas le live, moi j'ai eu le temps
c'est
de le faire. Donc
tu l'as fait par plaisir et un peu par pression, pas du coup?
Et un peu pour exister, ouais.
D'accord. Donc, ouais, Sylvain, tu te retrouves un petit peu de... Enfin, tu n'es pas dans la même pratique que Mélissa, mais tu comprends
ouais.
Ce qu'elle veut dire.
Ah, complètement, ouais, je comprends tout à fait.
Toi, Fibre.
Alors,
où est-ce que tu te places sur ce
déjà il y a une règle de base pour les utilisateurs Twitter, c'est que quand on ne tweete pas,
oui.
on ne perd pas de followers.
Ça, tu nous l'avais dit, c'est vrai.
Oui. Ça, c'est très important.
Je l'ai retenu. Ça.
Voilà. Et donc,
on n'en gagne pas non plus.
Quand on a l'excuse d'être en vacances, tout d'un coup, la pression redescend puisque on n'est pas censé produire du contenu. Donc, enfin, on peut gagner des followers passivement.
Ouais.
Tout va bien. Vous avez le droit de ne pas tweeter. Et là, c'est les vraies vacances. C'est vraiment chouette.
Oui, mais la rentrée, alors, Fibre.
Eh ben, la rentrée, c'est le retour de la pression. Tu vois, tu te dis, bon, il faut que je reproduise du contenu bien. Il faut que je mette dans le bain. En plus, vraiment, pour être performant en termes de contenu, c'est pas on-off. Tu vois, il faut recommencer à être un peu médiocre, un peu moyen et refaire du.
J'imagine Fibre se flageller devant son clavier Beppo, tu sais.
Non, mais après, oui, mais j'ai un Beppo, justement. Parlons-en. Voilà. Non, parce que je l'ai fait, moi, le Challenge 404. Voilà.
Pour les auditeurs qui sont pas au courant, c'était une chronique où on parlait de révolutionner, enfin, d'avoir des claviers, enfin, logique. Bref.
Voilà. Et donc, effectivement, la reprise est difficile. Sur différents points. Moi, je vis un petit peu les mêmes choses que Mélissa. C'est-à-dire, les vacances sont très agréables.
Ouais.
Et effectivement, il y a une pression à exister sur Internet. Mais Mélissa, comme moi, peut-être à la différence de Daz, c'est que,
vous avez des followers.
Non, Twitter nous apporte notre pain quotidien. C'est-à-dire que moi, mes contrats, je les ai par Twitter. J'ai encore eu un contrat, j'en ai eu deux, en fait, cette semaine. Deux propositions d'emploi très très intéressantes.
Dont un avec HP.
En DM. non, pas avec HP, mais en DM. Mais d'accord. Même cette histoire d'HP, ça s'est fait en DM, tu vois. Donc, donc effectivement, ce sont des enjeux très importants et une douce pression importante, voilà.
D'accord. Donc toi, tu ressens vraiment cette pression. Il faut que t'aies dit, il faut que tu sois là.
Aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir un métier, on va dire, un peu stable. Mais ouais, il y a un an, c'était très important.
Ouais. D'accord. Oui, mais c'est vrai. Enfin, c'est deux écoles, quoi. C'est vrai que c'est parce que ce sont des routiers. Tu vois, on parle des routiers. On compare Internet aux autoroutes de l'information.
Oui.
Sur la vraie route, t'as des mecs dont c'est le travail d'être sur la route, et t'as des gars qui partent en vacances. Bon, moi, je pars en vacances.
Toi, t'es
un scooter. Eux, ils conduisent des 36 tonnes là, et voilà, ils doivent produire du contenu.
J'aimerais tellement prendre.
Toi, t'es dans la Xantia Break, le coup de vent.
Tranquillou, voilà, avec la remorque, la bâche bleue sur le toit.
Chasse croisée des Haussiens.
Alors, dans l'autre sens, est-ce que vous avez déjà supprimé ou oublié ou être devenu moins intéressé par une personne parce que vous sentiez qu'elle n'était pas spécialement active? Sur son blog, sur Instagram, vous avez dit bon bah en fait je vois pas trop ce qu'elle fait donc je vais la virer, voilà.
Moi,
ça vous est déjà arrivé ou pas?
Ça m'arrive.
Ouais, Daz, toi t'as déjà.
Ça m'arrive parce que à un moment donné j'essayais de garder le cap des 94 followers parce que voilà 9-4 représente.
Oh, putain.
Et du coup
vraiment?
Ouais.
Non, des 94 like following.
Non, 94 following pardon.
Following.
D'accord. Maintenant je suis à 113, 1-3 représente. mais j'irai pas au-dessus.
Il manque un groupe qui s'appelle 656, tu vois.
Dis que t'as pas de ligne éditoriale. C'est faux quoi.
Non,
c'est
sur clair. Mon following, ça va, attends, c'est cool.
Le mec, il a une éditoriale sur son following. J'ai une éditoriale hip-hop francophone sur mon following. Tu vois, ça va trop loin dans le pitch là.
Pas hip-hop francophone, hip-hop du Val-de-Marne.
D'accord, hip-hop du Val-de-Marne. En tout cas, du coup, toi, t'as déjà supprimé des gens parce que tu sentais qu'ils n'existaient plus vraiment et que c'était
bah,
plus
du coup, ouais, quand je cherchais un chiffre spécial au niveau du following, je regardais ceux que je pouvais shooter en fait. En
d'accord.
Disant, bah, je l'ai pas vu.
Ah, bah, comme quoi.
Il a hésité à me shooter deux secondes et après.
Non, mais non, même pas.
Sylvain, ça t'est déjà arrivé, toi, de
bah,
virer les gens?
Ouais, je vire les gens qui s'indignent trop.
Oh, bah, ta timeline est bien calme.
Elle est bien vide.
C'est l'hashtag de cette émission, je suppose.
Ouais, on peut.
On va dire indignement, comme ça on en refait un mot bien laid. Tu ressembles à rien. Indignement.
Ouais, mais je vire pas les gens qui sont pas actifs.
D'accord.
Ils disparaissent comme ça tout seuls.
Ils disparaissent.
C'est pas comme des fantômes.
Vous peignez pas vos followings?
Non.
Jamais un petit coup de brosse.
Toi, tu les brosses un peu. Toi.
Ouais.
Tu les étouffes.
Coup de ciseaux.
Les petits poils morts, comme ça, tu.
Oui, attends,
ça prend trop de temps. Toi, t'en as pas beaucoup, mais.
Moi, je follow pas beaucoup de gens parce que sinon, c'est pas humain, tu vois.
Foutre de ma gueule ensuite, Daz. Mélissa, est-ce que toi, du coup, quand tu fais du tri justement dans tes sources, mais on parle, là, je parle pas forcément de réseaux sociaux, je parle même de sites internet ou de blogs que vous suivez, et à un moment, vous dites, je sais pas, je le vois plus vraiment popper dans mon radar, dans mon attention, et donc en fait, je peux le laisser partir.
Bah non, ils disparaissent d'eux-mêmes, hein. C'est tout le truc ma chronique, c'est genre, si tu t'écris pas, t'existes pas, donc je le vois pas, quoi. Je le vois pas, je l'unfollow pas, et c'est comme ce que disait Fibre aussi, c'est, si tu tweets pas, on t'unfollow pas, quoi.
D'accord, ok. Donc toi, non, tu gardes la chose.
Je laisse la nature faire.
Tu sais que ça met 20 000 ans à se dégrader, ces trucs-là. Ça reste longtemps. Fibre.
Alors, une grande partie de mes followings.
J'aime bien parce que chaque fois que Fibre parle, on dirait qu'il va faire campagne.
Alors, slide numéro 3.
Ce sont des followings politiques, effectivement. C'est-à-dire la politique interne à Twitter.
Oui.
C'est-à-dire que des gros comptes me follow.
Oui.
Et je les follow back par gentillesse, même si c'est OZEF leur timeline, tu vois.
D'accord.
Et tant qu'ils me follow, moi, on garde le contact. Cyprien, par exemple, tu vois. Parce que un jour, ce mec-là va m'être utile, tu vois. Et également. Deux effets qui se coulent. Donc, le premier effet.
Faire des OP marketing non, avec Webedia.
Non, mais le premier, si seulement. Le premier effet qui se coule, c'est que, c'est quand même des gens qui peuvent t'apporter du boulot ou je sais pas quoi.
Ouais.
Et le deuxième effet très, très, très important, c'est que quand vous êtes followé par un mec qui a 3 millions d'abonnés comme Cyprien.
Ouais.
Eh bien, ça veut dire que dans les 3 millions d'abonnés, vous apparaissez dans les suggestions de « Et si vous followiez Fibre Tigre ?» Tu vois.
D'accord.
Donc, ça vous apporte du following naturel.
D'accord.
Des followers naturellement, tu vois.
Ça veut dire que même si Cyprien... Enfin, en fait, toi, t'es pas du tout dans l'idée de savoir si un follower...
Ah non,
un
mais
following
moi, là,
ou
pas.
Même une source. Enfin, parce que là, toi, t'es vraiment très orienté sur Twitter. Hein. Mais toi, c'est pas une question de savoir si une source est active ou pas active ou si elle disparaît de ton radar. C'est en fait, tu gardes juste les choses par utilité.
Oui, tout à fait. Moi, quand je veux lire une timeline intéressante, je tape un hashtag.
Mais sur d'autres choses où c'est plus personnel, par exemple Instagram, où
oui.
tu prends du plaisir sur Instagram et du coup, tu es moins dans le game, on va dire.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il t'arrive de suivre des nouvelles personnes? Oui, mais est-ce qu'il t'arrive d'en retirer parce qu'en fait, tu suis plus vraiment ce qu'elles font, tu vois plus trop leurs photos ou non?
C'est odieux ce que je vais dire, mais.
Parce qu'avant, c'était pas odieux ce que tu dis.
Non, c'était pragmatique. moi, je suis un producteur de contenu.
Oui.
Et je fais que ça toute la journée, c'est mon métier, et je m'en fous un peu de ce que font les autres.
D'accord.
Franchement, vos Instagram, je vous mets des cœurs parce que vous êtes là, mais voilà, c'est tout. Je suis désolé. Hein.
Non, mais il a pas tort. À un moment donné, on a autre chose à penser quand même que des gens qui ne postent pas, donc qui sont pas visibles, tu vois.
D'accord.
Tu vois la démarche d'aller voir qui n'a pas posté.
Non, c'est pas la démarche. C'est de
si tu peignes tes following.
En fait, tu joues à Animal Crossing sur Twitter.
Non, mais c'est vrai que moi, je fais le coup du bonsaï. C'est plutôt du bonsaï que du peindre.
Oui.
C'est-à-dire que quand je regarde les gens que je follow, s'il y en a un qui me follow pas back, alors je peux dire le mec, il part dans la seconde. Hein.
C'est vraiment le rameau du bonsaï qui claque.
Ah ouais,
oui, parce qu'il y a des gens qui font des faux follow back. Hein.
Ah bah bien sûr, c'est une technique de base.
C'est quoi?
Ils te follow, donc tu les follow et ils t'unfollow derrière, mais toi tu continues à les follow parce que t'es honnête.
Non, parce que t'as oublié.
Non, mais attends, il y a plein de gens qui font ça, qui suivent genre 60 personnes.
Mais c'est la technique
personnes.
De base, ouais. Là,
ils
la
ont
base.
2000 followers juste comme ça.
Ouais,
c'est le mass follow.
Vous voyez, les gens se foutent de ma gueule parce que je suis peu de personnes, mais au moins,
je fais pas ça.
Je suis honnête.
Ah oui.
Je suis honnête. Donc, on conclut juste sur ça. Est-ce que, du coup, vous.
Il faut exister pour exister.
Est-ce que vous, à la fin, vous vous en foutez, de la pression qu'on se met pour créer du contenu ou en partager ou en tout cas exister? Est-ce que, vous vous en foutez ou est-ce que vous comprenez quand même qu'il y a un intérêt ou une obligation sociale aujourd'hui sur Internet et notamment les réseaux sociaux à exister, à poster une vidéo débile sur Facebook ou
je comprends pour ceux dont c'est le métier.
Ce qui est intéressant, c'est que lui, il prend encore du plaisir. Nous, on a encore.
Parce que vous êtes des professionnels.
On a tous une mini pression, quoi. C'est.
D'accord. Oui, donc pour toi, Mélissa, c'est vrai qu'il y a un distinguo entre Daz qui est amateur au sens propre du terme, et vous êtes plus.
Nous, on est pro, quoi. On est pro,
un gars qui tapine pas, ça le dérange pas d'aller sur le trottoir de temps en temps, de rigoler. De... Quand c'est
mais
ton lieu de travail, ben voilà.
Daz,
quand t'auras 20 000 followers.
Oui,
tu
bah
verras.
Dans
tu verras. Quand t'auras Webedia qui t'appellera, parce qu'ils t'ont appelé déjà deux fois, hein. On verra.
Ah, bah, c'est marrant, ce sera la prochaine fac. Allez, deuxième fac.
FAQ.
C'est rigolo parce que dans une des facs postées par Kenny FR, il nous dit, la rumeur selon laquelle vous allez être à votre tour aspiré par Webedia est-elle fondée? Daz sera-t-il remplacé par Cyprien? Fake. Alors, bah, évidemment, c'est rigolo comme question. Mais j'aimerais bien que vous imaginiez une émission où Cyprien serait un chroniqueur de 404.
Mais je pense que
Cyprien, c'est un mec que je trouve, enfin, très intelligent. Après, c'est pas du tout notre cible parce qu'il s'adresse à une cible plus jeune, mais c'est un mec qui est quand même vachement à tête sur les épaules. Et d'ailleurs, c'est aussi un mec que je trouve moins marrant que ce qu'il en a l'air. Il est vraiment, enfin, à chaque fois que, pour les gens qui l'ont rencontré en vrai, il est quand même assez sérieux.
Ça se fera jamais, donc, hein.
Avec comme mec. Non, mais imaginez, alors, est-ce que Cyprien, mais moi, je suis hors pas du fait fibre qu'il a 3 millions d'abonnés.
Je suis pas dans la déification des gens, moi, je m'en fous. Non, mais. Surtout que Cyprien, il a démarré en faisant des petits dessins un peu pourris, là, à l'époque, pour le JDG, donc.
C'est vrai.
Mais oui.
Monsieur Dream.
Monsieur Dream, il faisait
Monsieur Dream.
Il dessinait pour le journal du Gamer, à l'époque.
Non, c'est vrai?
Ouais. Donc voilà, pour moi c'est mon petit. Il me doit respect et obéissance.
Bah, et est-ce qu'il tuerait le père, est-ce qu'il te remplacerait à 404?
Non, je pense pas.
Non,
je pense pas.
Est-ce qu'il s'agenouille devant toi et tu donnes une petite calotte?
Non, mais
tête.
Attention, après personnellement moi, tu vois, tout le monde aime bien se foutre de sa gueule juste parce que c'est le plus gros finalement. Moi, ces vidéos, il y en a certaines devant lesquelles j'ai souri quand même.
Ah non, c'est bien produit. Moi, ouais, c'est juste que moi, ça m'est pas adressé globalement.
Oui, bah c'est pas globalement notre génération.
Enfin, quoi qu'il a fait, c'est, comme tu dis, il a fait des sketchs récemment qui étaient vachement mieux.
Ouais, il y a des bons trucs. Il y a des trucs mauvais, mais il y a des bons trucs
qui étaient ciblés.
Donc moi, non, ce Cyprien ne me dérange pas, moi, pas du tout.
Non, mais en tant que chroniqueur, 404.
Bah après, s'il rentre dans l'esprit, il y a pas de problème, tu vois. On a bien Sylvain Palais.
Sylvain, Mercato, Mercato 2015-2016.
Moi, j'imagine deux possibilités, si on fait un studio 404 ou Cyprien avec un chroniqueur. Soit on est extrêmement gêné.
Ouais, tu penses que tu serais gêné s'il était
là? Ouais, parce qu'il essaye d'avoir toujours le mot, de faire la bonne blague, de faire le truc, de faire le machin. Des blagues qu'on a fait 1000 fois et on est super gêné parce que nous, on essaie juste d'avancer dans un débat, tu vois.
Non, c'est intéressant parce que
pas
Sylvain,
du tout trollé.
Il s'imagine certaines images de Cyprien s'il était chroniqueur, c'est rigolo de se dire qu'il serait trying too hard.
Soit,
trying too much.
Soit, comme Vince Vaughn dans la saison 2 de True Detective, utilisé totalement à contre-emploi, le mec te lâche des super théories sur internet, tout le monde est là, ouais, mais en fait, t'as raison et tout. Et genre, il tue l'émission, en fait, il tue tous les autres.
Comme à la fin de True Detective, t'es un peu déprimé. T'es content, mais t'es un peu déprimé.
Spoiler pas.
Mais j'ai pas eu la saison 2. Mélissa. Je sais que tu voulais accueillir une nouvelle fille dans l'équipe, mais.
Mais il y a Lydia ce soir.
Oui, c'est vrai.
Non, on ferait une émission pour les teens. Déjà, il y aurait 600 personnes devant le tank. Ouais.
En train de nous snapchatter.
Ça changerait complètement la donne. On serait vraiment tous un peu gênés, j'imagine. Et
Ta gueule, le gros black, laisse parler Cyprien.
Exactement. Il y aurait la pression sur la vitre. Mais je pense qu'au fond, on aurait un débat pas si con.
Ouais, moi aussi, je pense.
Je pense qu'on aurait un débat intéressant.
Fibre.
Il me semble que faire l'excellent travail que fait Cyprien.
Putain, mais tu recules devant rien. C'est vraiment
en mode tente.
Vous pouvez laisser
bon soir, c'est Fibre Spectre.
Je pense pas qu'on peut même un mec qui fait des trucs un peu cons comme PewDiePie, je crois pas qu'on puisse atteindre un niveau déjà de chiffre d'affaires personnel si important et le gérer en plus parce que à la France en particulier. Et être une tanche. Et je pense que ce mec, en fait, c'est comme Squeezie, il baisse le niveau pour leur audience, ils font les clowns pour leur audience. Ce sont des mecs qui maintenant, ils gèrent bien. Et il est possible d'ailleurs qu'on soit tout petit face à eux s'ils viennent par leur charisme.
Je pense
par
que possiblement on est un peu petit.
Voix, et voilà, et on sera des tout petits bras. Et ben on fera le battle.
On en parlera.
Battle à faire.
On en parlera, Cyprien. Le jour où on sera approché par Wedia pour un rachat, il faudra qu'on pose nos négoces.
C'est mon petit, arrêtez.
On en parlera, Cyprien. Bon ben voilà, si tu nous écoutes, Cyprien, on t'attend le pied ferme. Allez, deuxième chronique.
Sujet numéro 2.
Quand votre vie se mesure en temps de chargement.
Quand votre vie se mesure en temps de chargement.
On l'a pas déjà fait,
c'est la chronique un petit peu non énigmatique de Fibre, tu vas voir.
Alors une chronique de droite dure, trigger warning, Madeleine Macron. Hein.
Une chronique droite dure, t'as changé Fibre. Fibre, il a vraiment changé quand même.
Ah, j'ai toujours été de droite.
Macron, droite dure.
Mais pas de droite dure.
Alors, l'internet est arrivé dans nos vies comme un témoin de Jéhovah sexy. Il vous a dit, je peux vous parler de Dieu, c'est moi. Alors vous l'avez laissé entrer et il a dématérialisé vos vies. Piou, envoler votre collecte de CD, de DVD, vaporiser votre agenda et votre paperasse. Face à la dématérialisation, il y a les gens comme Sylvain, que l'on peut qualifier de hipster, entre guillemets français, qui tentent de revenir à des vraies valeurs qui n'ont jamais existé d'ailleurs. Ils font du do it yourself, ils veulent construire leur vélo eux-mêmes et avoir des accidents eux-mêmes, ils veulent manger des légumes bio avec un peu de terre dessus, un peu de sueur du paysan encore. Ils font de la détox numérique comme Mélissa. Ils pensent que le luxe ultime est la recréation de cette réalité dévorée petit à petit par la technologie dans leur tête. Et puis, il y a les gens comme moi, des névropathes, des anxieux à l'idée d'acheter du pain ou de parler à son voisin plus de 2 minutes, et qui ont embrassé cette nouvelle vie en adéquation avec leur peur. Enfin, les caisses automatiques qui ne vous juge pas sur votre achat quotidien de chips et de tablettes de chocolat. Moi, hyper heureux grâce à Internet, j'ai organisé ma vie autour de la dématérialisation et de l'ubérisation.
Ah, carrément.
Donc, par exemple, dans mes relations professionnelles, moi, je ne travaille qu'avec des relations client-fournisseur, y compris, par exemple, avec mon associé Mickaël. C'est-à-dire, je ne suis pas salarié, je ne suis pas associé. On est l'un de l'autre client et fournisseur. Et si un jour, il y a une prestation qui ne nous plaît pas, on arrête.
Ah oui.
Voilà, on passe à autre chose.
C'est beau ce que tu dis.
Donc, moi,
la chanson d'Hélène Segarra.
Oui, moi je ne pense pas au travail particulièrement productif, mais en tout cas le matin, j'ai pas à subir les conversations de collègues de travail sur Koh-Lanta la veille, tout ça, devant la machine à café. C'est-à-dire que quand je travaille vraiment, parce que je fonctionne en ubérisation.
D'accord.
J'ai besoin de travailler, je fais, on va dire avec du Uber virtuel, je fais appel à des gens à qui je délègue partiellement mon travail, par exemple. Donc moi j'aimerais aller encore plus loin dans cette déstructuration du système. Il y a eu une expérience un peu on va dire parodique et anecdotique qui a été faite par un certain A.G. Jacobs qui travaille à Esquire et qui a décidé, comme il le raconte dans une chronique, de sous-traiter en Inde sa vie perso par des sous-traitants indiens. C'est-à-dire que pour $1,500 par mois, il y avait une équipe qui traitait tous ses mails personnels. Il a commencé, comme il était rédacteur, à sous-traiter ses articles, c'est-à-dire qu'il ne travaillait plus. Et il est allé même jusqu'à traiter ses conflits familiaux, c'est-à-dire que il disait à son assistante indienne, je me suis disputé avec ma femme, tu peux lui envoyer un mail et elle se débrouillait mieux que lui. Et du coup, son couple était en harmonie, il faisait plus rien.
C'est comme dans Her, où il y a des gens qui t'écrivent tes cartes de vœux et tout ça pour toi, quoi.
Voilà. Donc là, on est dans la on va dire la sous-traitance totale, un peu d'ubérisation aussi. Mais moi, début d'été, j'ai eu la chance d'aller un peu plus loin. Donc j'ai rencontré des entrepreneurs un peu plus jeunes qui sont des vrais digital natives et des vrais entrepreneurs, donc un tout petit peu plus jeunes que Sylvain. Donc c'était pour un projet.
Sylvain, ce sera le junior toute sa vie, quoi.
Toute ma vie, je serai le rookie, moi.
Non, c'est non, il y aura peut-être des nouveaux chroniques. Donc c'était pour un jeu.
À quel âge, Cyprien?
C'était pour un jeu de cartes, donc un produit qu'on peut toucher avec les mains, et tout s'est fait par WhatsApp.
D'accord.
Donc WhatsApp, c'est une
application de chat.
Voilà, c'est comme un messenger, Facebook Messenger sur chat.
C'est-à-dire qu'avec des partenaires de business pour créer ce jeu de cartes, tu as tout fait via un chat.
Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez cette idée de l'entreprise ancienne où il faut se réunir autour d'une table qu'on a louée, qu'il y ait des avocats, de la paperasse, tout ça. Là, j'ai vécu le rêve qu'on nous présentait dans les années, début des années 2000. C'est-à-dire que l'ébauche du jeu, les Excel de travail collaboratif, le recrutement d'une graphiste, la sélection d'un imprimeur en Bulgarie, le paiement et de mes partenaires et de l'imprimeur, la livraison du stock s'est fait livrer à Amazon et c'est Amazon qui s'occupe de la distribution et de la vente. Ce qui fait qu'à aucun moment j'ai touché le produit.
À quel moment t'as rencontré tes partenaires?
Voilà. Et donc non seulement c'est la dématérialisation comme finalement c'est pas extraordinaire, c'est juste on a poussé le concept au bout, mais là où il y a un effet complètement, et là je me suis senti dans le futur, c'est-à-dire que j'ai fait ça sur mobile WhatsApp et je l'ai fait de façon complètement asynchrone, c'est-à-dire que j'étais au chiottes, je répondais à un mail, j'étais dans une file d'attente, je répondais au truc, c'est-à-dire j'ai fait ça pas au travail, j'ai fait ça dans mes moments libres comme j'aurais pu jouer à Candy Crush.
Donc dans tes interstices de moments, t'as créé un business à distance et de manière
voilà.
Dématérialisé, dépersonnalisé.
Dans les petites miettes de temps. Je suis encore un peu dans un schéma ancien. Aujourd'hui, quand je ne travaille pas, je suis ailleurs. Mais à un moment, rends à mon bureau. C'est-à-dire que je me mets devant mon ordinateur et je travaille. Et là, c'est le premier projet que je fais sans être, à mon bureau qui est déjà chez moi et à côté d'une console de jeu. Donc, j'étais déjà, plutôt cool. Et là, j'ai réussi à faire un projet.
Sur ton smartphone, d'une main, d'un pouce.
Et surtout, par des petites miettes de temps, complètement éparpillées et quelque chose de concret. Donc, poussons la réflexion plus loin. Et si tout pouvait se concevoir ainsi, au détour des petits moments libres de notre journée, avec un simple mobile en main. Et si le travail du futur, en plus d'être ubérisé, il était dématérialisé.
Éclaté même.
Voilà. Alors là, je vois Daz sourire. Et qui me dit,
j'ai passé ce stade.
J'ai pas imité sa voix, mais il me dirait, oui, ok, pour tes petits projets OSEF, ça passe. Mais quand ma Dacia Logan tombe en panne, comment tu la dématérialises ton garagiste? Voilà. Ce à quoi je réponds, mais Daz, pourquoi ne pas imaginer des applications de guidage, des hotlines par chat, des kits,
des hotlines, c'est quoi ça?
Hotline, excusez-moi.
Ok.
Hotline par chat. Par chat, excusez-moi, j'ai du
mais
mal.
Mais des hotlines par chat, mais ça existe, ça?
Oui, attends,
pour
mais
le garage.
Total.
Pour le garage.
Ah, d'accord.
Des kits à commander. Comme cela existe, de la même façon que tu dépannes Internet, tu peux demain, pourquoi pas, dépanner ta voiture, par exemple. Aujourd'hui, la médecine s'oriente vers des créations de bases de données de symptômes donc on ne sait pas pourquoi, mais on se doute que c'est pour gérer à terme, via le mobile, certains patients, avant que les patients se gèrent même eux-mêmes leur, préventivement leur maladie.
Via Doctissimo.
Donc c'est là, si vous pouvez chanter l'international, je vais faire un discours politique. C'est-à-dire, je suis convaincu que cette société...
Attends, tu commences par une chronique de droite dure et tu chantes l'international maintenant.
Non, on va pas chanter l'international.
Une internationale libérale, c'est-à-dire que je suis convaincu que cette société ubérisée et dématérialisée peut s'étendre à toutes les initiatives humaines. Que les entreprises qu'aujourd'hui, qui génèrent en elles-mêmes des rivalités, des tensions chez Slate, ils s'engueulent tout le temps. Voilà. Des procès, des maladies, des suicides, hein, dans le groupe Le Monde. Ils seront amenés à disparaître. Comme autrefois.
Quelle générosité pour tous.
Comme autrefois ont disparu les guildes et les fiefs. Et cela se fera sans aucun conflit. Parce que quand les jeunes entrepreneurs avec lesquels je travaille prendront la place des travailleurs, on va dire, inquiets d'aujourd'hui, de l'ubérisation, les chauffeurs de taxi qui sont un peu vieux, et ces gens-là, ils prendront les retraites pour lesquelles ils sont battus, et les jeunes vont arriver, et ils vont peut-être créer cette société complètement ubérisée, qui sera une société agréable, où il sera agréable de travailler, tout simplement.
Pour un névropathe.
Oui. mais je la trouve bien.
Ok. Très beau plan de vie. Pas trop ambitieux, hein, pas trop à grande échelle de la partie. Alors, bah, première excuse, on s'est gouré de titres de chronique.
Ouais.
Parce que, en fait, j'avais relu une autre chronique et donc j'ai envoyé un mauvais jingle à Gislain. Donc ça, on s'en excuse.
C'est pas grave.
On parlait plutôt donc de l'ubérisation, de la dématérialisation, de l'éclatement temporel et de l'attention au niveau du travail aujourd'hui que toi tu as vécu.
Oui.
Donc je rappelle aux auditeurs, tu as créé un jeu de cartes.
Ouais.
Avec des gens que tu n'as jamais vus. Des intermédiaires que tu n'as jamais vus, le tout par chat via smartphone, t'as apporté toi tes services.
Et j'ai même pas eu un carton chez moi, quoi.
D'accord.
C'est et effectivement c'est ce côté plus que cette dématérialisation qui peut être envisageable, c'est ce côté je le fais dans mon temps libre.
D'accord.
Et je veux dire, c'est une initiative d'entreprise. Enfin c'est complètement fou, quoi.
Alors est-ce que cette vision de Fibre qui sont donc tout le monde micro-entrepreneur pas fragment qui met à disposition ses capacités ou ses talents à distance, de manière très 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 flexible, avec plein de gens pour créer une sorte de société un peu atomique, donc une société de droite de l'international, hein, comme le voudra l'imaginer Fibre. Est-ce que vous êtes d'accord, Mélissa ?
Mais vous étiez combien ?
4.
Voilà.
Quoi ?
Donc, si t'es au-dessus de 4, c'est mort.
Pourquoi ?
Parce que tu t'écris ça fait beaucoup plus de gens qui écrivent, tu passes beaucoup plus de temps à lire, t'es obligé de te poser à un moment.
Non, mais alors, on est 4, par exemple. Il y a aussi il y a un imprimeur.
Et il est ponctuel.
Attends, il y a un de nous quatre qui a géré l'imprimeur, mais c'était pas moi.
Du coup, c'est ponctuel. Tu peux pas faire travailler genre 50 personnes sur WhatsApp, quoi. C'est pas possible.
Pour toi, Mélissa,
il y a un effet d'échelle, en fait.
T'es d'accord, mais sur un certain modèle seulement.
Ah, moi, je rêverais de le faire, mais si t'as 50 personnes, t'as un problème d'échelle.
Non, parce que, mais pourquoi dans une entreprise, ça marche quand il y a 50 personnes? C'est juste que vous êtes en micro-cellules avec une hiérarchie, et ces micro-cellules de hiérarchie, vous pouvez les recréer à travers WhatsApp. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un groupe, qui est le groupe de création, le groupe de fabrication, et ainsi de suite.
Oui, c'est le schéma des cellules terroristes, hein.
Daz aussi, tout en mesure. J'aime bien quand Fibre et Daz se répondent toujours. Daz, toi, tu évidemment rigolais tout en rechargeant ton fusil à pompe pendant cette chronique.
Non, pas tant que ça. Comme d'habitude avec Fibre Tigre, on a atteint la singularité, le point où cette émission bascule dans le n'importe quoi. Je dirais que le truc de Fibre Tigre fonctionne quand ça fonctionne. Ah. Non, mais quand ça fonctionne, c'est-à-dire quand ça marche. Par exemple, si on prend ce principe-là, mettons que les journalistes qui ont fait l'infomercial sur le HP Spectre mode tente machin.
Tu vas tellement manger Fibre, tu vas tellement manger.
Mettons qu'en fait, tu vois, la suite de leur carrière dépend de cette OP, parce qu'en fait, ce qu'ils nous proposent, c'est ça, c'est de voguer de projet en projet. Bon, ces mecs-là, normalement, plus personne ne les embauchera jamais. Hein? Non, mais c'est vrai. Alors que s'ils sont salariés au sein d'un grand groupe.
Oui, mais
de type mondial.
Donc, toi, tu dis le salariat, c'est bien parce que ça favorise l'incompétence.
Non,
parce que ça te donne.
Ce que
le droit
je dis, c'est que ça te donne le droit de te planter, en fait.
Oui, mais
et ça, quand on a joué à ton jeu. Non. Rien.
Non, mais ce que disait Fibre aussi, c'est que justement, l'intérêt, c'est que Fibre a des activités, on va dire, principales. Il parlait de sa relation avec son associé dans son éditeur de jeu, où ils ont une relation et ça lui prend beaucoup de temps. Mais dans ses miettes de temps libre, il arrivait à créer des sortes de micro-projets.
Voilà, ce que disait Mélissa, c'est un hobby, ça, en fait. C'est pas un projet, tu peux pas vivre que de ça, tu vois.
Donc vous validez le fait qu'on peut faire des petits projets comme Fibre l'a dit, mais par contre, quand il veut mettre à l'échelle globale ce type de fonctionnement, là, vous pensez que ça marche plus.
Mais ce que Fibre fait là, c'est juste comme si Sylvain disait, les gars, ce week-end, j'ai réparé mon vélo, et puis, en remontant dessus, du coup, la roue était réparée, tu vois. ouais, ça roule, ça marche. Ouais, bah, ok, cool. T'as juste réparé ton vélo. Enfin, je veux dire, y a rien de...
Pour toi, y a pas de révolution.
On va pas tomber en pamoison parce que Fibre Tigre a fait un jeu de cartes avec quatre pélos et un imprimeur, quoi. Je veux dire, à un moment donné, faut voir la big picture, tu vois, c'est,
Oui, mais il l'a fait depuis les Giottes, depuis laquelle la poste, avec un pouce comme ça.
Oui, mais qui n'a pas répondu à des emails pro aux Giottes? Enfin, tu vois, depuis les Giottes du travail, en plus.
Quand t'as fait Outdare, tu nous avais dit qu'il y a des moments où t'étais obligé de voir ton associé.
Mais oui.
Ah non, mais
et que t'essayais de les réduire le plus possible, mais qu'il y a des moments où c'était incompressible et t'étais obligé de le voir.
Alors, je l'ai vu physiquement pendant la création du jeu deux fois, une heure, mais on se parle effectivement beaucoup par téléphone. Mais après, c'est lui.
Vous avez vu que deux fois une heure pendant la création de Outdare.
Ah, qui a duré un an. Mais par contre, la comment ça s'appelle? Lui, il est une personnalité particulière qui fait que je suis obligé de lui parler par téléphone parce que lui, c'est le téléphone, tu vois. Mais je pense qu'avec des digital natifs, des jeunes, on peut déconstruire les sociétés et puis on peut les alléger, excusez-moi, mais
Fibre Musk.
Non, mais à un moment, il faut un peu bouger parce que excusez-moi, je l'ai dit hein, dans mon truc, je sais pas si vous êtes heureux dans votre entreprise, mais la plupart des gens ne sont pas heureux dans leur entreprise, ils détestent leur patron.
C'est un point de vue fort du film, mais c'est un point de vue qui peut se défendre aussi. C'est vrai que il y a beaucoup de choses qui ont changé avec le numérique et que les fonctionnements des sociétés à partir d'une certaine taille n'ont pas du tout changé.
Aujourd'hui, la seule raison pour laquelle, au moins quand on est dans le tertiaire, un peu comme le nôtre, le graphisme, tout ça, le web, tout ça, la seule raison pour laquelle on est en entreprise, c'est que fiscalement on gagne plus d'argent quand on est salarié que quand on est freelance, parce que on est.
Non, mais je suis. Enfin, mais moi je suis pas complètement opposé à ta vision du truc. Je pense que l'entreprise peut gagner à s'inspirer de ces modèles-là de micro-cellules qui avancent en toutes petites équipes et qui sont en mode agile, comme on dit chez nous. Maintenant, enfin toi, t'es toujours en train d'opposer finalement l'entreprise, genre les PTT de 1950 à Fibre Tigre Incorporation, quoi.
Toi tu dis toujours que tu es à la COGIP.
Mais moi je suis à la COGIP parce que ça me fait le terme me fait marrer, tu vois, mais moi personnellement dans ma COGIP de 10 000 salariés, je suis dans une équipe de 6 personnes et on est complètement autonome, tu vois.
Vous pourriez faire un Slack ou un WhatsApp et tout gérer à
c'est pas la peine parce qu'en fait on est juste à côté les uns des autres, donc on peut se parler, ça marche aussi.
Tu pourrais être en congé paternité, être tout le temps avec ta fille géré par mobile.
Mais je dis pas qu'il faut rejeter ça, en fait. Moi, je n'oppose pas les deux mondes. Je pense qu'au contraire, ça s'interpénètre complètement. Tu vois, là-dessus, je suis un petit peu progressiste, contrairement à d'autres gens.
Correct, Daz.
Mais oui, alors, Sylvain, vas-y.
Sylvain, on t'a pas encore entendu là-dessus.
En fait, ce que je trouve formidable, c'est que tu n'aies pas vu ton produit. C'est-à-dire que tu vas vendre des cartes.
Ça, c'est fort. Ça, c'est fort quand même.
C'est fou. C'est super dangereux.
Ce que je veux dire,
t'imprimes un truc, c'est un truc de malade. Tu sais pas ce qui sort de l'imprimeur. Tu te rends compte de ça?
C'est
un truc de fou. Ça, c'est un gros risque.
Ils sont toutes roses, tes cartes.
Non, mais c'est un gros risque. C'est un truc qui va être vendu 10 euros. Tu veux dire, voilà. Dont on n'a pas fait la pub. Je veux dire, le premier client, ce sera moi. Donc, il faut pas déconner non plus.
Et le deuxième truc, c'est que les gens, parfois, ils ont, dans leur relation sociale et dans leur contact social, ils ont besoin juste de la présence physique. Tu vois, comme disait Ram, ils sont pas tous névrosés.
Je trouve ça.
C'est pour ça que Fibre précisait bien que lui étant un névropathe et un timide, justement.
Mais tu peux pas souhaiter ça pour la société entière.
Excuse-moi, je crois que c'est un truc de vieux, ça. De voir les gens, en vrai. Je crois que c'est un truc de vieux.
Mais arrête.
Ah si, je suis désolé.
Mais, alors, développe là-dessus.
Pourquoi est-ce qu'on fait pas Studio 404 sur Hangout, sans même caméra, sans même webcam?
Mais moi, par exemple, Studio 404, ce qu'on fait dans notre fonctionnement normal.
Alors, pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, nous, Studio 404, enfin, je pense que les gens sont quand même au courant parce qu'on en fait en public, mais globalement, Studio 404, on l'a toujours fait en réunion physique.
Oui.
Parce que j'ai toujours refusé de faire des podcasts via Skype que je n'aime pas du tout. Notamment parce que je trouve qu'il y a un manque de répondants et d'alchimie lorsque les gens ne se voient pas ou se voient à 10 images secondes, etc.
Mais même on fait des réunions avant qu'ils sont physiques.
Et justement, dans le fonctionnement de 404, normalement, il y a une pré-réunion dans laquelle on se voit et on débat. Ça n'a pas été fait ce mois-ci parce qu'il y a eu impossibilité. Et on est là.
Il y a eu une, mais t'étais pas là.
T'étais pas là, mais nous, on l'a fait.
Il y a eu impossibilité pour Fibre.
Ouais, il y a eu impossibilité. Donc, du coup, et ça se passe très bien. Et je propose que pour les prochaines, on fasse tout à distance, voilà. Mais cela étant,
on l'a fait une fois, ça se passe très bien. Enfin, ok, très bien.
Non, mais après, si on peut avoir une qualité de son par Skype, peut-être une qualité de son identique.
Mais non, il faut qu'on soit dans la même pièce pour te mettre des gifles. C'est n'importe quoi, ça.
Bon, écoutez.
Non, mais c'est intéressant.
Attends, truc de vieux, voilà. Se voir en vrai.
Donc pour toi, se voir en vrai, c'est un truc de vieux.
Non, se voir obligatoirement en vrai pour régulièrement pouvoir faire du vrai travail professionnel. Enfin, se voir en vrai égale travail professionnel, c'est vraiment une pensée de vieux, tu vois. Voilà.
D'accord. Non, mais je trouve ça intéressant. Alors évidemment, c'est très couillu, mais c'est intéressant. Bon, je pense qu'on va indigner tous les RH de Twitter.
Hein, ils sont vieux.
Indignement, si vous me suivez. Tous les vieux RH de Twitter.
Si vous êtes pas d'accord, c'est que vous êtes vieux.
Donc, si vous êtes vieux de gauche molle et vous avez chanté la nationale, hashtag indignement dès la sortie.
Pas l'international.
Bah oui, parce que l'international, c'est fibre.
La nationale.
Très bien. J'ai hâte de voir vos réactions. Allez, la nouvelle fac.
FAQ.
Eh ben, dites donc, on est bien. Allez. Une petite FAQ qui du coup c'est bien ça, elle est presque en accord, mais qui nous vient de Facebook ce coup-ci et qui nous demande à quoi va ressembler la progéniture de la génération Y, nous demande Alexis.
Le vent souffle sur la steppe.
Parce qu'on a déjà, alors la génération Y, on vous rappelle que c'est un no running gag entre nous, on adore dire génération Y, notamment pour qualifier Sylvain. Donc la génération Y, on est d'accord que c'est la génération qui a grandi et avec Internet. Mais ce ne sont pas les millennials qui, eux, sont nés avec Internet. Où je me gourre.
J'en ai aucune idée.
Ah, Sylvain, c'est
ça, pas ça, j'ai arrêté depuis longtemps, tu vois.
Je crois que la Gen Y, c'est à partir de 80 ou 81, je crois.
Non.
Moi, j'ai envie de poser la question à notre.
Non, parce que moi, je suis de ce jeu-là.
Moi, je suis X.
Moi, je suis X aussi. Génération X.
Ça se joue sur Sylvain et moi, genre 6, 7, fin d'année.
Je dirais fin des 80, moi, plutôt, pour la génération Y.
Ouais.
Bon, alors, on va dire. La génération d'après.
C'est genre 92, 93.
Ils sont pas encore nés parce que maintenant les gens ils ont des gamins à 40 ans, donc c'est un peu compliqué.
Oui, mais quand bon. On voit. Oui.
Encore une fois, c'est une question.
Ceux qui sont nés dans les années 2000, quoi.
De merde.
C'est une question. Non, c'est une question ultra nombriliste en fait, parce que tu vas en Angleterre, des nanas nées en 90 qui ont déjà des gosses, ben y en a partout, quoi.
Non, mais. Pas trop de raccourcis.
C'est vrai, parce que t'as un appart fourni par la ville quand ça t'arrive avec tes filles mères, donc voilà. Je veux dire, tu vas en Angleterre, cette question n'existe pas. Voilà.
Déjà, ils s'appellent Tyrion et Daenerys, donc ils ont beaucoup de mal à vivre.
Voilà, donc. Bon, vous savez pas quoi ressemblera la nouvelle génération?
Non, franchement, c'est simple.
Allez, Sylvain.
La question qu'il faut qu'il se pose, c'est est-ce que de toute façon.
Elle, c'est une.
Pardon.
Alexis.
Il faut qu'elle se pose la question de est-ce que, donc, dans cette génération Y, là, le boucher d'Issingeo et le mec qui bosse dans l'IT à Paris, ils vont avoir les mêmes enfants? La réponse est non.
D'accord. Ouais. Mais on pensait qu'Internet allait un peu mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Tu penses qu'il y aura toujours des clivages sociaux géographiques? Encore plus. Ok, très bien.
Eh bien, je pense pas.
À quoi ressemblera la génération post-Y?
Je trouve que ce raisonnement très logique de Sylvain qu'on retrouve dans Balzac, on va dire.
C'est un raisonnement de vieux.
Voilà, c'est ça. Non, mais il fait abstraction que le fils du boucher et le fils du maire de Neuilly sont tous les deux sur Facebook, donc c'est obligé de s'exprimer par écrit, donc d'avoir une culture de l'écrit, ce qui n'était pas le cas il y a 200 ans, que ce sont des gens qui vont avoir, qu'il y a une mondialisation des loisirs, c'est-à-dire qu'ils regardent les mêmes choses à la télé.
La génération prochaine sera globale et assez unifiée pour toi.
Oui, et après c'est vraiment par gros chunk de pays, tu vois, il y a des cultures, dans certains pays les gens sont plutôt polis, dans certains pays les gens sont plutôt renfermés sur eux-mêmes,
c'est la vie de film, c'est
des gros chunk.
Mais sur certains trucs, je suis d'accord avec film, je pense qu'on a une génération qui sera beaucoup plus globalisée et qui aura les mêmes outils et les mêmes
ils jouent au même jeu vidéo, ils jouent au même triple A.
On regarde la même télé depuis 20 ans et t'as toujours des enfants qui connaissent l'opéra, la musique classique, la danse contemporaine, et d'autres qui sont en train de regarder Sauvé par le Gong et Beverly Hills. Je veux dire,
tu penses qu'Internet ne donnera pas à peu près les mêmes types?
Mais non, parce qu'il y aura toujours un besoin de différenciation des uns par rapport aux autres, de toute façon.
Même sur Facebook, l'algo fait que ça partage des trucs dans ton cercle, donc c'est les, enfin tu vois, c'est. Ça
mais vous n'avez pas l'impression que justement, enfin Daz en parle tout à l'heure, mais les phénomènes un peu forts ont des échos mondiaux et globaux.
Non, mais ils ont les mêmes outils, c'est-à-dire que tu vas avoir les mêmes sur Snapchat, mais ils n'auront pas forcément les mêmes pratiques, et ils n'auront pas accès à la même culture.
Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le contenu est différent, mais l'outil est le même. Et quand vous avez des enfants de milieux différents,
c'est déjà une forme de globalisation et d'unification un peu des cultures et des techniques, non?
Oui, mais nous on avait la télé, on regardait pas les mêmes programmes, tu vois.
Oui, parce que c'était la télé.
Il faut voir aussi une chose, c'est qu'on est absorbé par la culture américaine, et la culture américaine a ceci de bien, c'est qu'elle nivelle les classes dans les populations. C'est-à-dire que en France on se vouvoie et on se tutoie, par exemple. Je reviens de Corée où il y a 7 niveaux de politesse et les mecs qui sont tout en bas, ils peuvent même pas exprimer leurs idées, tu vois. Donc en Amérique, il y a juste le you, c'est-à-dire il y a qu'un seul niveau, c'est-à-dire un clodo peut parler à Bill Gates sans problème dans le McDo.
Après il y a le nigger qui suit le you. Ça change tout au rapport. Voilà.
Non, mais bon, et après tout n'est pas aussi clair que ça, mais en tout cas
effectivement.
Bon, en tout cas, juste pour finir sur cette question, cette génération Z hashtag,
non, déjà.
Génération hashtag.
Non,
c'est le dièse qui vient après le Z, non?
Je pense qu'on sera sur l'alphabet grec, là.
Non, mais c'est Z.
Mais Z, ça existe déjà, les gars.
Ouais. Ah oui, il y a déjà une génération Z.
On va recommencer à A.
Z prime,
c'est la génération A.
Z turbo? Non?
Turbo EX.
Bon, allez, si on n'a pas de réponse, mais en tout cas, on a toujours peur de fibre. Allez, prochaine chronique.
Sujet numéro 3.
2015, il découvre enfin le choc des photos.
Oh bah oui.
Non mais là tu sais. Encore une fois, je me fais complètement voler par le mec qui fait les titres.
Vous l'aurez compris.
J'ai l'impression que c'est Mélissa.
Vous l'aurez compris, c'est la chronique de Daz.
Oui, c'est ma chronique. Et c'est la rentrée. Et comme le veut l'usage, nous allons débriefer notre été. On l'a déjà fait un petit peu. Mon état à moi se résume en deux lettres. PC. J'ai en effet passé ces deux derniers mois à installer Windows 10, puis Windows 8, puis Windows 10, tout en essayant de faire rentrer un GPU de la taille de la Gironde dans un PC d'environ Tyrion Lannister. Donc je suis resté à Maison Alf, dans mon terre-terre comme on dit, et j'ai pu m'adonner avec joie à ce passe-temps génial, regarder les vacances des autres. Et je dois dire que cette année, j'ai été agréablement surpris par Instagram.
Eh oui. Comment ça?
Eh oui.
Pas de haine, pas de, non.
Non. Jusqu'ici, l'été sur Instagram signifiait pour moi photo de pied sur plage, sur piscine, cuisse sur rooftop parisien. En français, on dit toi. Et selfie ascenseur. Oui, c'est le.
On dit Sylvain.
Ça fait longtemps que j'avais pas fait, arrête.
Eh bien, en 2015, j'ai enfin eu de vraies photos de vacances. En lançant Instagram, je me suis retrouvé à San Francisco avec Bat et Chloé, entre deux séances d'indignation. Au Grand Canyon avec William, au Laos avec Rémi et Maria, au Japon avec Mathias, à Cologne avec Fabien et Bastien, dans un RER russe avec Gis et Angie, dans un bus libertin avec Sylvain, en Italie avec Mélissa, chez HP avec Fibre Tigre, chez Samsung avec Anne, dans les Alpes avec Jeannette, bref. J'ai enfin pu percevoir ce à quoi se destinait ce réseau au départ, faire rager, mais devant de beaux clichés.
Rager en qualité.
Voilà, c'est ça. Alors pourquoi cette année et pas les précédentes, vous allez me demander. Je ne sais guère, Gilbert. Peut-être est-ce dû... Oui. Ben on n'a pas de José, voilà. Bon, alors...
Non, c'est José.
Peut-être est-ce dû à un alignement des planètes. Peut-être est-ce que ce sont mes contacts qui se sont tous alignés entre eux. Peut-être qu'ils ont tous trouvé un boulot après 5 ans de chômage. Peut-être qu'ils ont plus rien à secouer des selfies. Peut-être même qu'ils se sont achetés un HP Spectre X360, dont le mode tente.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Facilite grandement le poste de traitement des photos.
Kala te facilite le traitement des photos.
Franchement, HP, ils ont fait un super investissement, je trouve. On en parlait pendant des années.
Bad buzz. Je ne sais pas et dans l'absolu, je ne veux pas savoir. 2015 m'a fait entrevoir la lumière. Je veux que cela reste ainsi pour l'éternité. Et puis tiens, puisqu'on parle de photos, en 2015, j'ai également pu observer ce moment rare où les réseaux sociaux se transforment en MMORPG. Ce moment où tous vos contacts, sans exception, se lancent dans la même quête, défendre leur point de vue. Le déclencheur pour moi et pour vous, on le connaît tous, hein, ce sont les images d'enfants syriens noyés pendant leur traversée vers l'Europe, qui ont déferlé sur les réseaux sociaux début septembre. Pardon. Mais avant celle du petit Thaïlande qui est devenu un symbole, et qui a été repris par les médias du monde entier, certains clichés un peu plus durs ont été partagés. Et là, Facebook m'a surpris, mes amis, guillemets avec les doigts, m'ont surpris. La grande majorité de mes contacts a pris position. Le quotidien sur Facebook, normalement, c'est une poignée de contacts politisés qui dénoncent des complots Illuminati ou l'immigration derrière la baisse des températures, pendant que les autres se partagent des vidéos ripées de 9gag ou des hoax pris au premier degré qui circulent depuis 1983. Mais là, tous se sont mobilisés et quelque chose de magique s'est produit dans une communion spirituelle digne d'Avatar. Belle image. J'ai vu femme au foyer d'Angers être totalement d'accord avec des hipsters parisiens portant barbe et fixie. J'ai vu des potes en désaccord total, j'ai vu des vieux liker les posts de jeunes, j'ai vu le sang sur ma peau, j'ai vu la fureur et les cris. Et j'ai crié.
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 Vous l'avez eu ou pas celle-là? Bon bref. Fallait-il partager ces clichés? J'ai pas la réponse, je l'ai pas eu, je l'ai toujours pas. Par contre, j'ai eu des réponses, plein, partout. Et je suis toujours incapable de répondre, moi, à cette question, si tant est d'ailleurs qu'il faille y répondre. Facebook est là depuis 2007, Instagram depuis 2010, et personnellement, j'aurais attendu 2015 pour en saisir la quintessence. Du coup, pour marquer le coup, et à défaut de me tatouer, j'ai créé un profil sur LinkedIn.
Oui, et d'ailleurs, il mérite le détour. Enfin, je sais pas s'il est privé, mais...
Mon profil LinkedIn?
Oui.
Never private.
Avec très peu d'images sur LinkedIn, d'ailleurs.
Ah bah oui, ou pas.
Bah oui.
Eh oui.
Alors du coup, ça y est, enfin, toi qui aimes tellement le poids des mots, tu as enfin subi le choc des photos. Hein.
J'ai subi, ouais, le choc.
Mieux vaut tard que jamais.
Littéralement, ouais. Je pensais pas que c'était possible. Surtout pour la partie Instagram où vraiment, voilà, c'était en mode second degré, la consommation second degré. Et là, non, cette année, j'ai vraiment appris des trucs, visité des machins que je, enfin, vu des trucs que je connaissais pas. C'était très très intéressant.
D'accord.
Vraiment.
Donc ça, ça t'a changé un peu ton rapport à.
Ouais, ben bah, je me suis.
L'image et aux photos des autres, partagées
bah, ouais,
par les autres.
Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y aura un petit peu moins de rage et beaucoup plus de naïveté. Enfin, je l'avais jusqu'à ce que j'entende la chronique de Fibre. Donc là, je suis reparti en mode berserk, mais. Mais voilà, sachez que pendant un court instant, j'étais cool.
Alors juste sur le point avant de, d'atteindre le gros débat, vous pensez que les photos sur Instagram se sont améliorées avec le temps et que les gens partagent des choses plus quali ou non ?
Bah, la typologie est plus grande maintenant. C'est-à-dire ouais. que t'as plus ce qu'ils disaient au début. Avant, t'avais vraiment les mêmes photos, quoi. C'est ouais. les mêmes cadres, tu voyais pas grand-chose parce qu'en plus c'était flou. Donc, mais là, les gens du coup essayent de trouver des nouveaux angles et d'être vraiment photographe. Et du coup, tu te retrouves vraiment avec juste des belles photos.
Non,
quoi.
Non, mais je demande pas du Lamuari. Hein. Je demande pas, des trucs de diagonale, oui, de plafonning et tout. Hein,
des trucs que tu
connais. Non, mais des belles photos.
Non, mais des trucs que tu connais pas. Plafonisme. Parce qu'au début d'Instagram, on faisait tous les mêmes photos. Alors là, tu t'essayes toujours de ce que tu disais, de chercher l'angle que les gens n'ont pas vu, quoi.
Donc toi, t'es d'accord pour dire qu'il y a quand même une hausse de qualité et d'approche chez les gens sur Instagram qui
C'est pas ça que je disais. Hein. Je disais que là, je voyais le Grand Canyon tel qu'il devrait être pris. C'est-à-dire que le mec, il a pas zoomé sur un caillou du Grand Canyon. Il m'a montré le Grand Canyon.
D'accord. Donc t'avais des belles photos, quoi.
Voilà, des photos qui étaient à regarder, des trucs pas forcément avec une grosse recherche artistique ou une compo de malade, mais juste, je suis allé dans des endroits sympas, quoi.
Vous preniez déjà du plaisir avant à regarder les photos des autres en vacances ou c'est effectivement comme disait Daz, vous voyez surtout des orteils, des ailes d'avion?
Moi, Instagram, ça m'a toujours servi à ça.
C'est vrai, les ailes d'avion, enfin, c'est dur.
Pour choper des meufs et à ça.
Sylvain.
J'ai même demandé, je crois que c'est l'année dernière, j'ai demandé sur Twitter que plein de gens me filent des contacts Instagram de personnes qui sont à l'étranger, partout dans le monde.
D'accord.
Parce que je me suis dit, autant découvrir les autres pays à travers Instagram avant de pouvoir aller les voir en vrai. D'accord. Ça marche bien.
Ouais, c'est vrai.
C'est très cool, ouais.
Toi, t'as fait un voyage en Islande cet été.
Ouais.
Et tu t'étais documenté?
Non, je me suis documenté sur Tinder du coup.
Incorrigible.
Mais non, je m'étais pas documenté sur Instagram, mais
tu avais forcément déjà vu des photos distantes.
Mais j'avais déjà vu des photos
distantes
sur Instagram passées ou des trucs de National Geographic, des trucs comme ça. Ouais.
Si, est-ce que tu regardes Instagram aussi maintenant et ça te fait plaisir d'un point de vue purement visuel
entre deux projets pro?
Alors moi, Instagram, ça a été une révolution dans ma vie. Ouais. C'est-à-dire que j'ai jamais été quelqu'un intéressé par
l'esthétique,
le visuel.
Ouais, le visuel.
Et à partir du moment où il y avait cette incentive de, c'est un réseau social, il faut y avoir du like.
Ouais.
Je me suis mis à dire, ah ouais, ça c'est beau. Ça, il faut que je fasse le détour pour aller là-bas parce que ça va, je vais me rapporter des cœurs, tu vois. Et il y a deux choses, c'est que pour revenir à ta question première, pourquoi les photos sont plus belles? Parce que je reviendrai sur la chronique de Daz, mais pourquoi on peut dire ça, c'est que premièrement, bah Instagram, il a changé, le logiciel a changé, donc il permet plus de choses aujourd'hui et elles sont plus belles. Voilà,
les téléphones ont changé aussi.
C'est un beau logiciel, on a des belles machines. Et deuxièmement, ça reste le réseau social, un des réseaux sociaux les plus importants du monde, il est supérieur à Twitter.
Ouais.
Et il y a plus d'enjeux économiques d'ailleurs sur Instagram. Et effectivement, donc la course à qui aura le plus de likes et qui aura un gros compte. Il y a plus de motivation là-dedans. Et dernier point, ça fait quand même un petit moment qu'il existe. Et aujourd'hui, les tweets se raffinent un peu. C'est-à-dire qu'on fait des meilleurs tweets. Enfin, on fait des tweets qui sont plus retweetés, ce qui est un peu différent. Et on fait des photos de plus en plus belles parce que tout simplement, on a appris le business. Effectivement, il y a deux ans, on photographiait un petit caillou en mode ironique parce que on découvrait Instagram. Puis on s'est aperçu que quand on prenait une photo premier degré, on avait plus de likes. Du coup, on fait ça maintenant. Voilà.
D'accord. Si, bon, toujours dans,
tout le temps dans le
best practice.
Le test and learn.
L'AB testing.
Je vais faire une mini réaction à la chronique de Daz. C'est que les Anglais disent que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Et peut-être que tu vois les choses plus belles parce que peut-être que tu es mieux dans ta peau.
Oh là là!
C'est mignon. Je l'attendais.
Je voudrais arrêter toute l'émission là-dessus. Mais on va continuer.
Sylvain!
Non, c'est pas Gandhi qui disait ça.
Non, c'est un
proverbe.
Non,
c'est Fibre.
C'est Gandhi qui dit tout, moi, j'ai l'impression.
The beauty is in the eye of the beholder.
Non, mais après, c'est vrai qu'il y a...
C'est Will Ferrell sur Twitter, je crois, qui dit tout.
Will Ferrell.
Non, not Will Ferrell.
Not Will Ferrell.
Il y a quand même beaucoup moins d'ironie sur Instagram, en fait.
C'est vrai.
Il n'y a pas la recherche du bon mot. Enfin, il y a la recherche du beau cliché, mais c'est juste un truc.
C'est vrai que...
Tu prends une belle photo, quoi.
On en parlait un petit peu, mais tu le dis mieux, Mélissa, c'est que c'est très premier degré, finalement, Instagram. Mais est-ce qu'il y a un côté aussi d'Az presque reposant avant quelque chose? C'est genre, j'ai aimé, j'ai pris une photo, j'ai pas tenté de faire un truc effectivement avec 2 degrés de lecture ou avec un crypto machin comme beaucoup plus par écrit par exemple.
Sur Twitter, ça c'est un peu l'enfer.
Il y a pas beaucoup d'indignement, #indignement sur Instagram.
Sur Instagram, non, pas des masses.
À part sur quelques pubs. Oui, bon, encore, après ça c'est autre chose. Alors, deuxième partie de la chronique d'As, qui du coup a fait un grand écart total. On quitte le Grand Canyon et on trouve un petit enfant syrien noyé face contre sable. L'indignation est venue parce que, encore une fois, on revient à ce bon vieux choc des photos. En fait, finalement, les choses n'ont pas tant changé. C'est que, rien ne remplace la violence d'une photo, surtout dès que t'as des images de conflits, de guerres, de choses comme ça, pour faire réagir tout le monde de manière, comme tu dis, Daz, tout le monde se levait d'un seul homme. Mais là, ça peut partir dans toutes les directions, mais en tout cas, il y a eu vraiment.
C'est fou, Moi, c'est la première fois, en fait, en 7 ans, 8 ans de Facebook que je vois ça.
Que t'as vu autant de ton horizon et de tous tes cercles vraiment tout se lever sur cette image.
Première fois.
Ça n'aurait pas existé sur un texte ou.
Beaucoup moins. La photo était universelle. Après, bon, on a eu le choc de la photo. Normalement, il y a le poids des mots dans le.
Oui.
Bon, on est sur Facebook, donc.
Ouais.
On n'a pas beaucoup de poids. Les trois quarts restent quand même des golemons, mais j'ai vu des prises de position de gens que justement je pensais ultra cyniques, tu vois, et qui étaient pour le coup ultra premier degré.
D'accord.
Sur arrêter, c'est insupportable, machin, etc. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, en fait, que tout le monde.
C'est intéressant du coup.
Tombe un peu le masque, tu vois.
Et surtout, du coup, on revient un peu. Enfin, du coup, pour faire un lien avec Instagram, même si ça fait un peu étiré, il y a un côté très premier degré, une photo finalement. Est-ce que ça ajoute à son côté vraiment fédérateur dans le débat, et on sait que sur une photo, il n'y aura pas deux significations complètement différentes comme une phrase.
Attention, il y a des photos qui peuvent être postées sur Twitter avec un petit texte. Je reprendrai celui de Maître Eolas. Perso, j'ai trouvé nul à chier, mais bon, voilà.
Maître Eolas, qui est un Twitter influent, qui avait posté des photos d'enfants noyés avant.
Voilà. Il a voulu faire.
Mais justement, du coup, il y avait la photo et un bon mot.
Ouais, mais enfin la gueule du bon mot, quoi.
Oui, non, mais justement.
Tu peux citer le bon mot parce que
mot, c'était donc tu voyais des photos de donc c'était pas celle de Aylan, c'était d'autres enfants. Donc là, tu voyais par contre, enfin ils étaient pas face contre terre, tu les voyais vraiment gonflés par la noyade, etc., machin, et allongés en mode vraiment cliché anthropomorphique, quoi.
Ouais.
Avec ce soir sur la plage, les enfants étaient bien silencieux, tu vois. J'ai trouvé ça mais dégueulasse, vraiment pour le coup.
Mais du coup, c'est cette histoire. Là, il y a un texte qui vient presque. Pas salir, mais qui vient rajouter une deuxième couche de signification et de débat à l'image.
Ouais,
alors que la photo d'Hélène, d'une certaine manière, c'est la photo.
Oui, c'est la photo
pour elle-même, brute,
elle-même, en fait.
Et qui a fait que tout le monde a eu une sorte de base de raisonnement vraiment très, très cadré, très épuré, très premier degré, en fait.
Oui, il y avait, dans cette photo-là, je vais pas l'analyser en mode vraiment compo parce que de toute façon, je connais que dalle, mais je veux dire. Il y avait, la photo était porteuse de messages, en fait. Et les photos que Eolas lui a poussées en premier, c'était vraiment pour le coup, moi, du voyeurisme. C'était mettre un appareil photo dans une morgue, tu vois.
Ouais.
Et ça.
D'après toi, quelle est l'intention d'un tweeto comme qui fait ce type d'action?
Eolas,
quelle est son intention?
Se faire sucer. Qu'est-ce que je te dis? Non, mais sincèrement, j'ai trouvé ça dégueulasse, vraiment. Pour
d'accord.
Le coup, pour le
mais coup, alors, du coup, avant qu'on pose la question aux autres chroniqueurs, pour finir avec toi, Daz, t'as eu deux photos.
Ouais.
Il y en a une qui t'a choqué dans le sens où tu dis il faut pas afficher ça, et l'autre qui t'a...
En fait, j'étais dans la dynamique suite au tweet de l'autre con, là.
Eolas.
Voilà, Eolas.
Contrairement à Cyprien, ne sera pas chroniqueur 4.
Non, mais le pire, c'est que ce type-là, je le suis pas, moi.
D'accord.
Donc, je suis même pas en train de te dire, genre, je hate en regardant sa timeline, je m'en tape, en fait, de ce
poste. Ça a été retweeté.
Ça a été retweeté, et donc, ça a popé dans la mienne.
Tôt ou tard, Maître Eolas arrive dans ta timeline. C'est du direct de Twitter français.
Sans filtre, sans rien, tu vois. Et j'ai trouvé ça déjà, ultra voyeuriste. C'est vraiment, j'ai trouvé ça crade. Et le bon mot, je l'ai pas trouvé, moi, ultra bon.
Oui.
Et j'étais sur ces photos-là, moi, au départ. Quand après, d'accord, la photo d'Aylan est arrivée, moi, j'étais encore en mode scandalisé, tu vois.
Est-ce que t'as le même avis sur la photo d'Aylan, justement, qui est une photo qui arrive seule, que sur ces autres photos?
Ben ça, on en a
genre,
parlé.
Non, faut pas les montrer.
On en a parlé, et je pense qu'à un moment, le truc, la décision t'appartient même plus. Je veux dire, quand tout le monde s'en empare,
oui,
de toute façon, il y a une distance qui est prise. Tu vois, cette photo, je peux la regarder. Maintenant, je l'ai vue au départ. J'avais vraiment un haut le cœur.
Ouais.
Et maintenant, je peux la voir en tant que cette photo, c'est un témoignage, tu vois.
D'accord.
Et donc, voilà, le truc a été repris par tout le monde. Et je peux pas dire non, il fallait pas la montrer, etc. Après, encore une fois,
c'est pas le débat.
Ça dépend où tu places aussi ton curseur, tu vois. Moi, personnellement, je sais que ça m'arrive rarement, tu vois. Enfin, je suis pas un mec non plus à aller sur rotten.com ou les trucs comme ça pour regarder des photos d'accidentés de la route, donc c'est pas trop ma cam. Et j'ai vraiment été chamboulé, moi, quand j'ai vu les premières photos tweetées par l'autre idiot là.
D'accord.
Mais en même temps, c'était son but, tu vois, chambouler les gens.
Vous, cher chroniqueur, du coup, par rapport à ce que Daz a vécu, est-ce que vous pensez qu'il y a toujours cette puissance de l'image, surtout lorsqu'elle est dénuée de tout le reste, qu'il y a vraiment que l'image?
Moi j'ai bien aimé le j'étais dans mon bus libertin pendant le truc, donc j'ai pas vu
vous beaucoup. Rappelez-vous ce que vous faisiez lorsque
j'ai pas vu beaucoup de photos. C'était un peu speed, je travaillais en fait. Et du coup,
et
il travaillait les meufs.
Et du coup non, pas du tout. Et du coup en fait, moi ce que j'ai bien aimé, c'est le quand les sémiologues ont commencé à s'emparer de justement du phénomène plutôt que mes amis Facebook, que de toute façon je ne lis pas. Et on commençait
le poids condescendance. Et à...
non mais comme tu disais tout à l'heure, le poids des mots chez nos amis Facebook sont souvent le poids d'une plume et pas une plume qui sait écrire malheureusement. Et...
oh putain.
Mais t'as profilé.
Je connais qui va perdre des amis ce soir. Et ça c'est marrant, ma timeline est bien calme.
Tout le monde m'a bloqué. Et en fait j'aimais bien, j'ai trouvé ça très intéressant le fait que un enfant dans une situation de misère absolue, c'est quelque chose qui se retrouve tout au long de l'histoire. En fait, il y a eu plein de clichés comme ça. Il y a eu la petite fille au Vietnam, il y a eu un enfant mort en Afghanistan, etc. Et à chaque fois, retrouver cette scénarisation de d'un enfant, je pense que le
pris dans un truc plus grand.
Voilà, et le fait que voilà, qu'il soit complètement incapable et faible par rapport à tout ça. Et en fait, je pense que le fait que ce soit un enfant, ça nous je sais pas, ça nous chamboule plus qu'autre chose.
Donc toi, c'est pas tant l'image, c'est soit surtout le l'icône en fait.
Ouais. Et que du coup, ça existe aussi sur Internet, ça.
Parce que c'est vrai qu'il y a une photo qui avait beaucoup fait parler, mais du coup, de manière très faible par rapport à Hélène. Ensuite, c'était la photo du père qui tenait ses enfants, qui était en pleurs. Ouais. Et on a vu qu'il avait une montre, donc c'était pas. On a changé l'image des réfugiés, mais c'était finalement un débat qui a touché très peu de monde par rapport à Hélène. C'est qu'effectivement, on a vu là un enfant. Ouais, corps d'enfant seul, rien d'autre, etc. Ouais. Et là tout de suite, comme
je pense que la photo du père, elle a quand même chamboulé. Enfin, moi, je l'ai vu aussi.
Mais elle a pas soulevé les foules comme.
Personnellement, moi, elle m'a touché aussi pas mal, quoi. Et c'est peut-être parce que voilà, je suis père aussi, et du coup, tu te mets à la place du mec et.
D'accord.
Et
mais autour de toi, en tout cas, t'as pas vu autant de réactions.
Non, beaucoup moins, carrément. Bah si, j'ai eu les réactions de dire, regardez, en fait, les migrants réfugiés nanani, ils ont des tags ailleurs au poignet, et finalement, ils sont pas en galère, donc pourquoi ils viennent, quoi. Tu vois, truc un peu idiot. Facebook en même temps, bon ben voilà.
Pas Mélissa,
qu'est-ce
que t'en penses de tout ça?
Moi j'étais en vacances, donc j'ai pas lu les messages Facebook, j'étais dans mes rejets de tous les réseaux sociaux possibles et imaginables.
Mais t'as pas pu échapper à cette image.
Mais j'ai pas pu échapper à l'image. Et je l'ai quand même vue sur internet avant de l'avoir sur du papier là où j'étais. Mais du coup et en fait la photo suffisait à elle-même, quoi. C'était vraiment choquant. Et c'est seulement quand je suis rentrée que j'ai réalisé tout ce que ça avait amené, les analyses et machin. Mais en fait juste j'ai vu la force de l'image, parce qu'en fait j'ai regardé très peu de trucs et c'est le seul truc où je me suis arrêtée. J'ai fait genre wow.
Alors pour se distancier juste du poids émotionnel de l'image, mais vraiment pour analyser le type de média. Est-ce que ça vous aurait autant touché si ça avait été un autre média? Donc on parle de texte, mais aussi est-ce que ça vous aurait touché si on avait entendu un enfant hurler dans un fichier audio, si ça avait été une vidéo, ou est-ce que l'image, finalement, après toutes ces années, reste un média qui est vraiment très fort, très iconique, parce que ça ne bouge pas, c'est quelque chose où là c'était exceptionnel, ou est-ce que vraiment l'image reste quand même une sorte de média qui a cette à laquelle est attachée cette puissance, en fait, Fibre?
Je vais juste, quand tu m'as pas demandé mon avis,
Oh, excuse-moi, Fibre. Comme tu l'as, parce que tu l'as beaucoup donné, Dan.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça, est-ce que je peux?
Oui, bien sûr. Très bien. Avec grand plaisir.
Vous voyez, si vous
plaît. On est sur France Inter. Voilà.
comment dire, les photos et les hashtags, n'oubliez pas notre émission Radio Marais, on parlait de Bring Back Your Girl. Moi, j'ai pas oublié.
Et, Covid 2012, moi, j'ai pas oublié.
Je trouve que c'est pas, c'est pas inutile. Parce que c'est des choses qu'il faut pas les oublier. L'indignation ne sert à rien. Twitter ne sert à rien.
L'indignement.
Voilà. Les pétitions, les aboiements des gens, c'est insupportable. Par contre, c'est vrai que moi personnellement, j'aime l'argent. Mais cet argent, je veux pas m'acheter un hélicoptère super polluant avec. Je veux rendre le monde meilleur. Et c'est pour ça, c'est bien qu'il faut pas oublier ces choses-là. Parce que si l'un de nous, chroniqueurs, animateurs, producteurs, on a un jour le pouvoir de résonance et de changer les choses, c'est à ce moment-là qu'il faut se souvenir de ces photos-là.
Est-ce qu'on le fera par l'image?
Eh bien, moi, en tout cas,
c'est un cas très spécial, parce que pour toi, l'image restera un média.
Par exemple, j'ai fait un jeu vidéo qui a eu du succès avec l'argent du jeu vidéo, on en fait un autre.
Oui.
Sur l'espionnage et la politique.
Oui.
Et je vais parler de Bring Back, je vais parler de Bring Back Our Girl pour sensibiliser les gens à ça, entre autres choses. D'ailleurs, j'ai aussi parlé de la cause animale, parce qu'il y a des choses qui me touchent, qui m'ont touché avec des images que j'ai vues sur Internet.
D'accord.
Et j'essaie d'agir, tu vois. Et je pense qu'il faut, ce serait très bien si Twitter passait dans une V3, on va dire, où on était vraiment dans une véritable action plutôt qu'une indignement, puisque c'est le mot du soir. Voilà.
D'accord.
Le mec a placé sa promo.
Ouais.
C'est très habile.
Homme sandwich, toujours.
Le mec est complètement taré, quoi. Désolé, mais là, c'est hyper choquant.
C'est petit enfant. Tu trouves ça choquant?
Je vais m'indigner.
Vas-y, dis-moi, alors.
C'est petit enfant syrien, ça me rappelle un de mes jeux que je prépare.
Non, mais t'as même pas parlé de l'image enfin, tu parles.
Je dis que ces images, ce relais image, son ou texte, il est important. Faut pas l'oublier. Parce que, Bring Back Our Girl, aujourd'hui, tout le monde l'a oublié.
Oui.
Je veux dire, plus personne ne milite, alors que ces filles-là sont encore en train de se faire violer au Mali, hein. Je veux dire, rien n'a changé. Donc, il faut, et en plus, la France a retiré ses troupes, tout va bien, voilà. Donc, il faut pas l'oublier, et il faut surtout pas que dans 5, enfin, au lieu de vous indigner et d'en parler aujourd'hui, il faut que dans 5 ans, vous n'oubliez pas cette image.
Mais tu l'auras pas oublié, moi, l'image, je pense que je l'oublierai jamais, comme la petite vietnamienne, tu l'oublies pas, quoi.
Ouais. Est-ce que si tu voulais.
Vous faites quoi tous les jours?
Oui, mais si tu voulais ramener un peu, hein, parce que on va revenir synthétiser tout ça, mais si tu voulais refaire exister quelque chose comme Mélissa doit réexister sur Internet, Bring Back Our Girls. Tu le ferais rester avec un hashtag, avec une vidéo reportage, avec une image iconique. Qu'est-ce qui serait le plus puissant pour toi? Pour toucher les gens aujourd'hui sur Internet?
Internet, sur ce plan-là, a échoué. Donc, ouais. il faut utiliser d'autres moyens, peut-être il faut utiliser de la violence interne à la société, faire une pression auprès des décideurs d'une façon ou d'une autre. À un moment, il y a eu une guerre en Libye, sous Sarkozy. Pourquoi? On ne nous a pas demandé notre avis, on n'était pas d'accord.
Il a payé les missiles, tout simplement.
Oui, voilà, c'est ça.
Il faut nous payer
les missiles. C'est une question complètement économique. Donc, il faut, simplement, il y a eu le devoir, le travail d'information a été fait. C'est-à-dire, on a eu notre photo d'Aylan, on a eu notre hashtag Bring Back Our Girl. Et il faut juste ne pas l'oublier et puis arrêter de s'indigner, dépenser de l'énergie inutilement. Et si, faites bouger les choses plutôt que d'en parler. Voilà.
D'accord, mais ça n'a pas répondu à mes questions en fait.
Non. Par contre, ça a répondu au deuxième point condescendance de cette émission qui vient d'être donné.
Non, mais donc, est-ce que l'image, juste pour savoir par rapport à la chronique de Daz, est-ce que dans ce monde multimédia, on l'a ressorti, multimédia, est-ce que dans ce monde multimédia, l'image en fait restera le vecteur le plus puissant finalement par rapport à tout ce qu'on a pu connaître, c'est-à-dire t'as du serious game, t'as des hashtags, donc t'as de l'écrit, t'as de l'audio, t'as de la vidéo, t'as plein de choses. Est-ce que cette bonne vieille image en fait reste aujourd'hui le...
Mais elle est allée beaucoup plus vite, on l'a vu beaucoup plus vite, c'était beaucoup plus fort tout de suite si ça avait été un son.
On peut partager des vidéos très vite.
Non mais bien sûr, mais le son, t'aurais oublié le contenu du son ou la vidéo, tu te rappellerais d'une image dans la vidéo, enfin tu te souviendrais pas juste de cette image et là t'as aucun doute, tu sais où était l'enfant, le cadre, enfin le truc, quoi.
Donc pour vous, c'est pas un reliquat ou un héritage de notre culture qui est une culture de l'image, parce qu'on est né avec des magazines, des choses comme ça.
Non,
quelque chose qui a amené aujourd'hui à rester, que ce soit d'un côté du spectre sur les photos de vacances Instagram qui ont un vrai impact, et de l'autre côté du spectre, des images très dures de guerre ou de sensibilisation.
Une nuance, c'est qu'il y a aussi un contexte politique hyper fort. C'est-à-dire cette photo, elle n'a pas été prise par n'importe qui, elle apparaît pas on va dire, innocemment. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette polémique de pour ou contre.
Théorie du complot, quoi.
Théorie du complot.
J'ai l'impression.
Il y a un triangle dans la photo.
Non, mais arrêtez. C'est grossier parce que, je veux dire, il y a eu une vraie, s'il n'y avait pas eu ce débat politique ensuite, la photo n'aurait pas existé, c'est tout, je veux dire. C'est évident.
Je comprends pas. Moi non plus.
Quoi?
S'il n'y avait pas eu ce débat politique.
C'est les décideurs pour faire en sorte que la photo sorte.
Quoi? Non, la photo a participé d'un mouvement, il y a eu un débat en France, pour ou contre, d'ailleurs, la France a été hyper frileuse jusqu'à ce que l'Allemagne prenne une décision. Voilà, c'était
c'est le bon produit au bon moment, hein, cette photo.
Il y a un débat odieux entre le fait que les immigrants soient préférables ou non au SDF. Hein, je veux dire, c'est incroyable. Mais disons que cette photo, elle est là parce qu'il y a un débat. Elle a été renforcée, non pas parce que c'est une image, mais parce qu'il y a un débat politique derrière. Il y a un contexte. Voilà.
Tu ne crois pas que c'est plutôt l'image qui a forcé le débat politique à se polariser dessus?
Oula, je pense pas du tout, non.
Il y avait déjà le débat et cette image n'a fait que l'accentuer.
Oui, de toute façon, il y avait 20 000 personnes qui arrivaient aux frontières, donc il va falloir. Et le débat était inévitable, donc il fallait, on va dire, sortir les armes préventives. Et
oui, mais est-ce qu'autant de gens avaient participé au débat?
Ouais, à fond.
Est-ce qu'autant de gens avaient participé à ce débat et surtout étaient en faveur des migrants s'il n'y avait pas eu cette image? Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'images avant. Je rappelle que Libé a sorti un post assez intéressant en s'excusant d'avoir loupé cette photo d'Aylan et en disant d'un autre côté, mais on l'a vu passer Sur le coup, nos iconographes ont trouvé trop violente, on l'a pas gardée. Et en fait, on se rend compte que tout le monde l'a reprise, on se rend compte de la puissance aujourd'hui. Mais avant, ça faisait 3 mois qu'on avait
désolé
fait
d'avoir eu de la pudeur.
Ce qu'il disait, c'est qu'en fait, c'était le quotidien qui a fait le plus de une sur la crise des migrants, qui a fait des reportages et qu'on les accusait même de faire trop de lumière et trop d'attention pour cette cause. Et en fait, Libé en fait couvrait depuis très longtemps ce problème et disait on n'a jamais eu un répondant fou. Dans nos articles, dans nos unes.
Ils ont fait un post comme ça c'est pour dire,
on l'a loupé, mais on avait déjà fait 6 unes dessus, etc. Et puis, en fait, les gens, il n'y avait pas tant de retours que ça, quoi. Et là, cette photo, en fait, a tout renversé. C'est un peu
aigri, moi, je trouve.
C'est un petit peu aigri de la part de Libé, mais qui raconte aussi le fait que ce débat existait déjà et que cette image, là, lui a donné une échelle, une dimension qui n'existait pas avant, en tout cas. Bon, c'est un gros débat, en tout cas, hein. On attend vos réactions sur Facebook, hein. On lira impatiemment. Je vous propose de faire des réactions sur Facebook les plus facebookiennes possibles. Comme ça, on rigolera bien. Allez, on attaque une fac.
FAQ.
C'est la rentrée. Alors, j'en ai une FAQ qui est très pragmatique, hein. Jérém, aka J. Brialon. Donc, je pense que c'est Jérémy Brialon, hein, sur Twitter. Nous demande, aujourd'hui, je lance un service internet. Comment communiquer efficacement dessus? Qu'est-ce qui est incontournable?
Alors,
Jérémy voudrait exister sur Internet, c'est la rentrée, Mélissa. Non, mais voilà, aujourd'hui,
Jérémy,
tu lances ton
service. Un plan média, gratuitement. Ouais,
aujourd'hui, tu lances ton service sur Internet. Comment tu fais pour exister? Parce qu'effectivement, t'as tellement de gens qui lancent des services sur Internet. T'as tellement d'outils de curation, de plateformes de curation. Comment tu fais pour exister?
Il y a des incontournables.
Alors, Mélissa, qu'est-ce que tu ferais? C'est une FAQ, faut aller vite.
Il y a les incontournables, donc t'es obligé d'être présent partout, mais en fait, faut pas faire comme tout le monde, sinon t'existes pas parce que, t'as rien d'original.
Mais après, faut trouver une technique originale.
Ouais, mais alors vraiment originale, parce que par exemple, parlons des Revenants, la série de Canal+. Ils ont essayé de faire un truc original avec un hashtag rejoins, je sais pas quoi. Je vais pas citer leur hashtag, ça serait en faire de la pub.
Rejoins la Horde.
Et c'est tellement ridicule que tu fais, mais non.
D'ailleurs, c'était même pas original,
non,
du coup.
Non. Et en
mais
plus,
c'est pas original, ouais.
Oui,
j'ai pas...
non, mais sur une mosaïque, c'était quoi, une mosaïque interactive ou je sais pas quoi. Donc eux, ils devaient dire que c'était original. Mais c'était pas du tout original. Surtout que la série
un dispositif 360.
En gros, si t'as un bon produit, ton truc, ça va faire du bouche à oreille. Et ce que tu veux, c'est le bouche à oreille.
D'accord. Donc pour Mélissa, le produit le produit se suffira pour
juste que
pour
faire en sorte que 2-3 personnes sachent.
Ok,
si
Sylvain,
fais-nous une roco.
Alors,
slide 1.
La stratégie, c'est que tu ne sors pas de produit. Tu fais une landing page avec un formulaire web qui permet de rentrer son adresse email. Ensuite, tu fais du growth hacking sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux.
Du growth hacking.
Donc, tu fais du mass follow, du follow back avec tout le temps le lien dans ta bio. Les mecs vont dessus. Il y a une courte description de ce que ça va être. Si tu convertis à plus de 25%, tu lances ton produit. Sinon, tu laisses tomber, tu fais autre chose.
D'accord.
Une fois que t'as lancé ton produit, tu signales au mec, le produit est sorti, venez l'essayer. Et là, tu fais ta campagne RP auprès des médias pour avoir des retombées presse.
Donc, pour toi,
Sylvain Palais, mesdames et messieurs.
C'est rigolo, mais Sylvain Palais a recréé le système qu'avait créé Régine il y a 60 ans. Régine, quand elle a ouvert sa première boîte de nuit à Cannes.
L'histoire se répète.
Non, mais c'est génial.
Régine faisait des MVP, qu'est-ce que tu veux que
je dise ? Régine crée sa boîte de nuit. La boîte de nuit n'est pas fonctionnelle. Elle fait une soirée de lancement où elle refuse tout le monde à l'entrée.
C'est énorme, c'est parfait.
Et en fait, il y a un vigile qui ouvre apparemment la porte et qui dit non, désolé, vous pouvez pas entrer, c'est plein. Il fermait la porte aux gens. Et le lendemain, quand la boîte a vraiment pu ouvrir, c'était blindé de personnes. Donc là, tu fais pareil, tu n'as même pas de produit fonctionnel, mais voilà. Tu crées un petit portail de teasing, genre, laissez votre mail, ça va être génial.
C'est marrant parce que moi, je pense, après, en même temps, je suis pas dans le milieu, mais il y a une marque qui essaie de faire ça pour lancer sa montre, en plus via Kickstarter, une montre connectée, donc double fail. Et elle fait exactement ça, c'est-à-dire vendre un produit où je regarde les photos, je sais que c'est des trucs qui ont été faits sous AutoCAD et je sais que c'est de la merde. Et du coup, mais jamais de la vie, je m'abonne.
Mais en fait, tu.
Trop,
non, mais attends,
Kickstarter,
mais...
c'est donner de l'argent. Là, c'est juste donner ton adresse mail.
Oui, là, Sylvain, il monte même pas de produit. C'est-à-dire que là, les mecs,
ils font juste une description. Ouais.
Sylvain, c'est le buzz avant le produit, en fait. D'accord. Non, mais c'est bien.
C'est comme ça. Au moins, si ça marche pas, t'essayes autre chose et t'essayes.
Daz, tu sens un service sur Internet. Comment tu fais pour le faire connaître?
Alors,
efficace.
Une méthode ultra
simple.
Il
faut aider notre petit Jérém.
Une méthode ultra simple. Tu privatises la piscine Molitor. C'est pas dur. C'est déjà privé de base. Tu fais venir dedans tout ce que tu peux trouver comme has-been de l'intelligentsia parisienne, des people, des machins comme ça. Même des mecs qui sont pas là, en fait. Et après, tu leur demandes de tweeter en utilisant des hashtags.
Des liens Internet, ils ont
demandé. Et des liens Internet aussi, ouais, avec en plus un compteur.
Non, tu leur donnes les tweets.
Mais ça te coûte beaucoup d'argent.
Tu leur écris leurs tweets.
Ça te coûte des ronds, mais au moins on t'a vu. Et t'essaies aussi de faire chanter, parce qu'il faut quand même c'est pas juste pour ton téléphone.
Bon, bah, là, pour pas la nommer, on parle de la fameuse soirée Samsung pour le lancement de leur dernier
Trying
téléphone.
Trying to Machung, oui, tout à fait.
Trying to Machung.
Voilà.
C'est le nouveau nom de Samsung.
Qui sont vraiment décidément, j'aimerais bien d'ailleurs l'avis de Sylvain Palais sur ces gens-là, parce que ça fait quand même 2-3 OP qu'ils enchaînent et je me
2-3, 20-30 plutôt, non?
Non, mais moi, enfin, celle que j'ai vue déjà, je me dis, c'est prochaine étape, la lune, quoi, tu vois. Ouais. Là, c'est compliqué quand même. Sylvain, qu'est-ce que t'en penses de Samsung?
Ça sera l'occasion d'une prochaine FAQ.
Et toi, Fibre? Tu lances un service ou un produit sur Internet, comment tu fais pour le faire connaître?
Rapidement, 100% d'accord avec Mélissa.
Ok.
Donc, soit ton produit est bien, il marche, soit ça vaut pas le coup parce qu'il y a trop de... Enfin, voilà.
Ouais.
Avec une nuance,
oui.
Parce qu'elle a, elle a Mehdi de CanalSat qui font des bonnes choses.
Disclaimer, il a travaillé pour eux.
Non, voilà, c'est ça.
Avec qui Fibre n'a-t-il pas travaillé?
C'est transparent. Et non, mais
Canal
c'est-à-dire que elle a dénoncé CanalSat, mais CanalSat vend du contenu de fiction. Et c'est pas pareil qu'un service, donc.
D'accord.
C'est
mais là, Fibre, c'est une FAQ rapide.
Ouais,
tu sens un service sur Internet. Comment tu le fais connaître? Quelles sont tes techniques que tu vas
partager
à Jérémy?
Il est bon ou tu crèves, voilà.
Il est bon, tu crèves. Ok,
non,
d'accord.
Mais
c'est bien, Fibre est d'accord avec Mélissa.
Il est bon, ça suffit pas, hein. Il faut communiquer autour.
Ah non, mais attendez.
Un produit juste un truc. Bon,
ça marche pas. Ah bah, Outzer, Fibre, Outzer, t'as pas fait que ça. Donc, je suis désolé.
On a pas parlé de jeux vidéo, on a parlé de site web.
Ah, de produits, ok, d'accord.
Très bien, non, mais Fibre et Mélissa, d'accord. Et Sylvain, c'est Régine. Voilà. Allez, on attaque la dernière chronique.
Sujet numéro 4.
Après la journée sans voiture, vivrons-nous une journée sans Internet?
Ce titre alarmiste.
Ouh là là.
Oh là, la montée des eaux, couche d'ozone, qu'est-ce qui se passe?
1908, la technologie révolutionne la mobilité. Découvrez l'automobile et entrez dans une nouvelle ère. Aller d'un point A à un point B n'a jamais été aussi rapide. Transporter des marchandises partout dans le monde. À vous l'autonomie, à vous la liberté.
Oh, cette imitation! Oh, quelle belle rentrée!
Je me suis beaucoup entraîné. Il y a 100 ans, donc, en 1908, la première voiture de série était produite à grande échelle. C'est la Ford T. Cette prouesse technologique et sa démocratisation, en un siècle, ont façonné l'économie, la société, l'urbanisme, donc les villes, les territoires, les guerres aussi, l'environnement, le climat, la banlieue.
Oui, dit-il en me regardant.
C'est une avancée technique et technologique, comme on en a vu, pas mal d'autres dans l'histoire de l'humanité, la roue, le feu, l'électricité. Et on l'a appris à nos dépens avec l'automobile. Il y a un revers à la médaille du progrès technologique. Pollution sonore, gaz d'échappement, encombrement, oppression, agressivité, accident, taxi parisien. Vous me voyez venir gros comme une maison. Et Internet alors? Et oui, Internet et l'ordinateur sont également des technologies qui ont façonné la société, l'économie ces 20 dernières années et qui vont sûrement façonner demain nos villes peut-être. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'on a déjà rencontré le revers de la médaille Internet? Dimanche dernier, madame la maire de Paris, que je salue au passage, parce qu'elle ne rate aucune émission.
Tu penses qu'elle pourrait être chroniqueuse aussi?
Ah ouais, je pense.
Avec Cyprien?
Ouais, ce serait bien.
Madame Hidalgo, si vous nous écoutez.
Madame Hidalgo, elle a lancé la première journée sans voiture. C'est-à-dire qu'en un siècle d'automobile, on organise la première journée sans, parce qu'on n'en peut plus. Imaginez, on est en 2075, et madame la maire Delanoé, la petite fille adoptive de monsieur Delanoé, organise la première journée sans Internet. Seuls des modems 56K sont autorisés et tout devient plus lent, plus calme. Derrière cette initiative, on retrouve en fait une réalité qui est la même depuis des dizaines d'années. La technologie, à partir d'une certaine taille critique, elle nous a servi plus que nous nous en servons.
Wow.
Merci. Elle nous a servi du verbe asservir.
D'accord.
Se retrouver dans les embouteillages et les pots d'échappement à Paris, c'est pas un plaisir, mais c'est pas un choix non plus. On y est un petit peu obligé. Les gens doivent aller travailler. Faites une journée sans voiture, c'est faire une journée sans bruit, sans danger pour les piétons. C'est tous les Parisiens qui descendent dans la rue un dimanche, ce sont des cyclistes et des longboarders qui reprennent la ville. Faites une journée sans Internet, c'est aussi en supprimer la pollution. Celle de l'attention, toujours happée par une notif, celle du FOMO, comme disent les Américains, le fear of missing out, la peur de louper une information essentielle, comme toutes les informations sur Internet bien sûr. La dépendance au flux, au contenu en quantité infinie, l'éradication totale de la notion d'ennui, et parfois de solitude, comme on l'avait exprimé dans la toute première chronique de ce podcast. Et peut-être que les gens se diront bonjour dans le métro ou seront obligés de se voir physiquement pour travailler ensemble. Peut-être que tout ce stress généré par la pollution d'Internet sera atténué et qu'on se rendra compte qu'on se sent beaucoup mieux comme ça. Peut-être qu'assis sur un banc, on regardera le ciel plutôt que son smartphone. C'est marrant parce qu'on dirait que je crois pas un mot de ce que je dis. Dimanche dernier, les écolos, entre guillemets, on réussit une petite victoire avec cette expérimentation sans voiture. Dans 50 ans, les écolos seront peut-être les technosceptiques ou les militants de l'open source. C'est déjà un petit peu le cas. Je me considère personnellement comme un techno enthousiaste, capable de m'émerveiller devant des Google Glass ou de répondre oui à la redondante FAQ sur le transhumanisme. Êtes-vous prêt à mettre des puces dans vos bras? Oui, oui, oui.
Oui, oui, oui.
Mais je me pose également la question suivante. À partir de quand vais-je commencer à douter? À partir de quelle taille le réseau va commencer à m'asservir? Et est-ce que c'est pas déjà le cas, en fait? Et quand ce moment viendra, est-ce que je vais militer pour plus d'écologie des usages? Plus d'écologie d'Internet? Sans pour autant balancer de la caillasse sur des gendarmes à Sivens, nous sommes déjà tous un peu résistants. En se moquant des fanboys d'Apple qui font la queue devant un Apple Store, en ayant un peu peur de Google, en militant pour le slow journalisme, en étant contre le fait de filer un iPad à sa gamine de 2 ans. C'est bien, c'est modéré, consensuel et un peu mou, comme on aime bien en France. Ne pas trop s'engager, ne pas trop prendre position et ne pas faire de vagues. Mais si on veut un jour sauver la neutralité, ou si on souhaite refaire d'Internet un réseau décentralisé comme c'était prévu au début, ou tout simplement si on en a marre de cet asservissement volontaire à la technologie, il va bien falloir un jour se sortir un peu les doigts de son HP Spectre X360, surtout s'il est en mode tente. Dans votre quotidien techno bien tranquille, confortable et toujours plus contrôlé par de grands groupes privés, seriez-vous prêt à prendre les armes pour défendre ce pourquoi Internet a été inventé?
Oh là là, d'une voix très très calme.
Je suis très calme, je suis un peu hippie en ce moment.
D'une voix très calme. Donc là, tu nous expliques qu'on pourrait subir la pollution d'Internet et des technologies comme on subit la pollution, et qu'on se retrouverait de manière, ça fait un peu bizarre, voire ridicule de dire aujourd'hui, mais de se taper des journées sans Internet, c'est plus la digital detox, ça, c'est vraiment un truc genre c'est, général. Ouais,
comme si le Internet était devenu polluant comme l'automobile. C'est déjà, moi, un petit peu le cas, hein. Franchement, quand j'arrive en fin de journée et que j'ai passé ma vie sur Twitter à prendre des notifs dans la gueule, à voir des gens s'indigner, etc., j'ai envie, moi, de me calmer.
Tiens.
Daz,
tu regardes Sylvain. Fixement dans le blanc des yeux.
Oui, parce qu'il y a une très belle chronique. Très, très belle chronique.
T'avais une imitation au début, je crois que c'était enregistré tellement
ouais,
que c'était impeccable.
C'était super, c'était vraiment très, très bon. En fait, je pense que tu fais le parallèle automobile-internet, mais un autre truc qui pollue et dont on peut pas se passer, par exemple l'électricité, qui est quand même responsable de catastrophes écologiques,
mais
machin, etc.
Il y a pas des journées sans électricité.
Ben non, ça n'existe pas.
Des journées sans électricité.
Bah oui, dans le tiers-monde, il y a pas d'électricité.
La Earth Hour.
T'as une heure sans électricité.
Earth Hour.
Oui, c'est une heure.
Donc c'est une heure. Ouais.
Mais alors si t'enlèves le débat écologique et que tu penses juste à la pollution quotidienne de, tu vois, tu te prends pas les gaz d'échappement de l'électricité. Tu te prends pas le bruit de l'électricité. Tu ne prends pas les accidents de la route de l'électricité. Tu t'électrocutes pas souvent chez toi.
Les gens dans les hôpitaux qui meurent parce qu'il y a pas d'électricité.
Bah oui. Tu vois, si tu fais, enfin, à un moment donné, je veux dire, Internet, tu le coupes une journée, il y a pas mal de business qui vont décider que c'est le week-end ou un jour férié en fait, parce que on peut pas trop s'en passer. Après, il y a encore une fois, il y a le moyen, donc le média Internet, et puis les usages qu'on en fait, tu vois. Et je trouve que considérer que forcément, quand tu utilises Internet, ça veut dire que par défaut, t'es un junkie. Qui peut pas lâcher son smartphone 30 secondes, machin, etc. Je pense que c'est pas une journée sans Internet qu'il faut faire, c'est une journée sans smartphone.
Est-ce qu'on peut polluer les autres en étant, par exemple, rêvé sur son téléphone ou en étant moins attentif ou machin? Est-ce que c'est une forme de pollution?
Le phone stacking, on a arrêté de le faire, c'est très dommage.
Eh non, moi je continue de le faire.
Ouais, mais
je peux dire que ma copine n'est pas contente.
D'ailleurs, Mélissa a partagé un article là-dessus aujourd'hui.
Qui est trop bien.
Ah, je l'ai pas vu.
J'ai enfin lu l'article que je voulais lire depuis 6 ans sur comment.
Voilà. Mic drop.
Non, mais attends. C'est énorme.
Tu peux arrêter, j'arrête.
Tu aurais pu l'écrire.
J'étais tellement content, je le lisais, je me dis putain, mais enfin. Sur, en fait, comment le téléphone fait. Même genre, par exemple, le téléphone là, il est sur la table et le fait qu'il soit là. Ça fait qu'on va parler, bon là on a un débat, mais qu'on va parler de choses moins sérieuses parce que en fait on sait que potentiellement on peut se faire interrompre. Et donc on va moins tenir la discussion et genre même dans nos interactions physiques, on va être moins connecté.
Donc la présence physique d'une technologie peut polluer une discussion.
Complètement.
Elle peut dégrader la qualité d'une discussion.
Voilà, elle change le fond propre de nos discussions.
Mais comment tu le sais?
Analyse de vieux. Parce qu'en fait,
pour le coup, je suis d'accord.
C'est une prof du MIT qui a étudié ça pendant 5 ans sur comment ça changeait toutes les discussions. Et d'accord. Genre, par exemple, ils prennent un camp de vacances d'enfants où genre ils leur enlèvent leur téléphone et en fait ils se rendent compte que les enfants apprennent à mieux analyser les émotions.
Ils sont plus longs, plus suivis.
Et du coup, ils parlent mieux, ils se connaissent mieux.
Ils ont plus
les émoticônes, ils sont obligés d'analyser les émotions.
Mais t'as la même chose sur les adultes dans un resto avec, tu vois, est-ce qu'il y a un téléphone ou est-ce qu'il n'y a pas de téléphone sur la table.
C'est hyper intéressant comme approche.
Et c'est ouf comment ça change tout. Après, je pense que comme la journée de la voiture, ça a pas marché, la journée sans Internet.
Ah, ça a pas marché.
Moi aussi, ça a marché.
Non, moi j'étais boulevard Voltaire, il y avait des voitures partout. du coup il y avait des gens qui marchaient sur la route, c'était encore plus dangereux que dans une journée normale avec des voitures.
Ouais, parce qu'il y avait des zones.
Parce que du coup,
oui,
tout
c'est
le
vrai
monde
que
était
la journée,
là,
la journée sans voiture, c'était 4 arrondissements de parc.
Non, mais pour dire la vérité, la journée sans internet, j'y crois pas. Effectivement, ça bouleverserait l'économie, ce serait la merde, etc. Mais est-ce qu'on peut pas s'en affranchir un petit peu?
Est-ce qu'on peut pas faire une journée sans internet dimanche? Puisqu'une journée sans voiture, ça bouleverserait l'économie, genre plus de livreurs.
Soyez chez Free, hein. Vous êtes chez Free. Journée sans internet, c'est en moyenne un jour sur deux. Free mobile.
Imposé quoi.
Moi c'est la journée sans 4G, l'année sans 4G chez Free Mobile.
Bah voilà, ouais, c'est ça. Ouais.
Fibre.
Je pense que le
Fibre qui parle très calmement et qui envoie des missiles ce soir. Mais vraiment, il appuie sur le bouton de manière très soyeuse.
Je pense que c'est
un exocète.
Non, je pense que le parallèle entre la voiture et l'internet est une erreur.
D'accord. Pourquoi ?
Je suis d'accord.
Ne serait-ce que parce que l'internet enfin vous apporte de l'amour.
Je suis pas d'accord.
Non mais je veux dire, excusez-moi.
Tu ne t'es pas fait dépucer sur une banquette arrière de Xantia Break?
Alors, je dirais pas pour moi, mais il y a beaucoup de gens à qui c'est pas arrivé. Mais surtout, c'est pas forcément ça. C'est oui. Instagram. On a parlé du Twitter de l'indignement, mais il y a aussi le Twitter de l'amour. Il y a des gens qui s'envoient, qui se disent est-ce que ça va, est-ce que voilà, tu me manques, est-ce que on va faire ça ensemble, tout ça. Et c'est
mais
des
les
choses...
gens ne meurent pas, enfin... Fibre Tigre, ils peuvent s'appeler pour se dire ça. Il y a du téléphone, il n'y a pas d'internet.
Et puis ils peuvent prendre leur voiture pour aller se voir.
Ouais, parce que la voiture n'a pas aussi facilité des gens qui se voyaient plus, qui se pouvaient passer du temps ensemble aussi.
Ben non.
Non.
Si on peut se voir, mais je veux dire, la voiture ne donne pas de l'amour comme internet.
Bien sûr que si.
Ben si,
puisque moi j'aime pas les voitures parce que je trouve que c'est très
polluant. Tu vas sur la nationale 6 dans la forêt derrière Brunois, t'as des voitures qui sont arrêtées.
Ouais, et qui donnent de l'amour.
Qui donnent de l'amour. Il y a des petits bougies sur le tableau de bord, c'est magnifique. Moi, un vrai moment de poésie en fait.
D'accord.
Hein.
Et ouais,
non, mais plus sérieusement, parce que ce débat, il a un scope assez large, je pense. Et qui.
Est-ce qu'on peut arrêter de faire des blagues de minutes?
Et qui, pour garder la métaphore de la voiture, peut déraper dans tous les sens très vite.
Non, mais.
Ne serait-ce que parce que la voiture rapproche les gens.
Oui.
C'est pour ça que la voiture donne de l'amour. Mais comme n'importe quel transport.
La voiture, non, mais là, je suis d'accord avec Sylvain, c'est que la voiture a une portée qui n'est pas du tout que technologique, c'est une portée sociale gigantesque.
Mais encore une fois, c'est une vision, Fibre Tigre a une vision du truc qui est très parisienne et super centrée sur Paris.
Ouais.
Moi, personnellement, sans voiture, je serais pas la personne que je suis actuellement, vous me connaîtriez même pas, en fait, parce que moi, j'ai pas grandi dans Paris, j'ai grandi à 45 km de Paris, donc.
Sauf que 45 km ne veut plus rien dire parce que t'as une voiture.
Ouais, voilà. Donc, pour moi, enfin, tu vois, le fait de dire la voiture ne sert à rien, finalement, par rapport à Internet.
Non, elle donne pas d'amour.
Je vais dire une chose par rapport à la remarque de Mélissa, c'est que les digital natives, donc les jeunes là dont on parlait tout à l'heure, sont des gens qui adorent le téléphone, ils sont accros au téléphone. Genre, c'est pas la cigarette après l'amour, c'est Twitter après l'amour. Hein. Et
ça me déprime tellement.
Et attends, bah justement,
petit message à ma copine, justement, si tu check Twitter, Instagram après l'amour.
Moi je suis très Instagram, Twitter après l'amour.
Non.
Et je suis hyper content quand il y a quelqu'un qui dit ah ouais c'est cool, on regarde Twitter ensemble, tu vois. Et c'est super super cool. C'est-à-dire tu vois.
Juste après l'amour. Tu check Instagram et Twitter.
Oui, il me l'a dit.
Ah oui, encore un peu en sueur, encore
non,
un
mais,
peu haletant.
Mais attendez, excusez-moi, vous êtes là hyper sceptique, mais tous les gens qui ont moins de 25 ans, c'est le cas. Je veux dire, arrêtez de.
Ce sera le deuxième appel.
Selon une étude américaine.
Ce sera le deuxième appel qu'on fera quand vous aurez écouté cette émission. Regardez-vous Twitter et Facebook et Instagram
enfin,
juste après l'amour.
Enfin, je peux aller au restaurant avec des gens avec des jeunes quoi qui regardent tout le temps leur Instagram sans être jugés, tu vois, sans me dire ah ouais mais tu regardes ton téléphone, on n'est pas
donc
ensemble
pour toi,
si on est ensemble je t'envoie un like.
Donc pour toi l'omniprésence,
j'abandonne
l'omniprésence, il est fort. C'est à dire que je pense qu'on devait enregistrer le 14 septembre, il n'aurait pas été même, je pense qu'il s'est endurci en 15 jours. N'empêche que c'est intéressant parce que même si le point de vue fait très extrême, la manière de raconter extrême, c'est intéressant, c'est un contrepoint à ce que vous dites, c'est que pour Fibre et pour une génération qui l'imagine, il n'y a pas de pollution de l'objet technologique ou de la technologie numérique dans nos vies. Ça veut dire qu'elle est omniprésente, mais pour toi, elle est intégrée et elle ne vient pas empiéter sur d'autres choses, d'autres moments.
Source d'amour et de jouissance.
D'accord. Voilà. Mais pas de pollution.
Non.
D'accord.
T'es sûr? Donc ça veut dire que là, techniquement, les jeunes de maintenant, la génération EX2 prime alpha turbo, là, qu'est-ce qu'ils vont reprocher à leurs gamins dans ce cas-là?
Non, on sait même pas s'ils vont se reproduire, hein, tu vois, quand tu regardes Sylvain.
Après, pour faire l'avocat de Fibre, il y a aujourd'hui des us et coutumes par rapport à nos smartphones qui nous auraient semblé insupportables il y a quelques années, qui ne le sont plus.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Mais ça disait dans son article qui a l'air extrêmement intéressant. Aujourd'hui, les discussions ont été modifiées à cause des smartphones. Les gens parlent différemment et peut-être de manière moins profonde, moins intéressée, moins suivie, moins développée. Et ça, alors les gens lisent l'article, ils disent, ah, c'est intéressant, mais personne ne s'indigne, hashtag indignement, d'une certaine manière. On a accepté certaines de ces coutumes. Aujourd'hui, on voit des gens qui passent leur temps sur leur smartphone, on ne dit pas quel no life, parce qu'en fait, on fait pareil. Est-ce que si on va plus loin, est-ce que des fibres, est-ce que même dans des moments plus intimes, ce sera accepté
pendant
que,
l'acte, alors,
que des gens...
Pendant l'acte, comment tu le prendrais, toi, justement?
Mais il y a des tas de jeunes qui font des Snapchats pendant l'acte, ça pose pas de problème.
Non, mais non, pas pendant l'acte pour toi te mettre en scène, pendant l'acte pour juste reprendre ta timeline, savoir ce qui s'est passé pendant
que... Oh, quel enfoiré, c'était Olas.
Je vais te dire un truc.
Il m'a empêché de jouir.
Je suis certain que Sylvain, de temps en temps, pendant l'acte, il se dit, je checkerais bien ma petite timeline, non?
Non, pas du tout. Pas du tout.
Il est classique là-dessus.
Je suis très romantique, moi, finalement.
Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que des choses qu'on pensait inacceptables à une époque et qu'on a acceptées?
Bah, les mœurs évoluent, mais non, bon.
C'est-à-dire qu'entre, sur une échelle de, Mélissa à fibre, est-ce qu'on n'était pas déjà au 6, 7, d'une certaine manière?
Attends, ça veut dire de quoi?
Sur une échelle de 1, à fibre, est-ce qu'on n'a pas déjà passé la ligne médiane? Est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger doucement vers le monde que fibre nous a raconté?
Mais alors la question,
non,
la
fou,
question,
fou,
la,
on
que
parle
dans,
même plus de pollution.
Non, mais dans le papier dont Mélissa. Je parle, c'est que ça change aussi la façon dont tu arrives à analyser les émotions des gens. Donc d'accord. C'est que tu sais pas ce que pense la personne qui est en face de
mais
toi.
Il t'envoie un émoticône, c'est bon.
Tu l'as juste jamais vu, quoi. Donc d'accord. Tu sais pas. C'est chaud, quoi.
Donc là, il y a une réelle interférence, une réelle pollution. Mmh. Donc on retourne.
Mais on s'en rend vraiment pas compte.
Mais enfin, la différence quand même que je vois avec la voiture, qui était quand même le point de comparaison initial, c'est que les usages de la voiture en 1930. Versus les usages de la voiture en 2015, ils ont pas trop changé.
D'accord.
Alors que bon, Internet en 2015 versus Internet en 2010, déjà, c'est plus la même chose, tu vois.
Ouais.
Donc il y a quand même, c'est pour ça que le parallèle pour moi il est un peu biaisé parce que.
C'est intéressant ce que dit Das. C'est vrai que la voiture,
une
dans
voiture,
l'usage,
tu montes
dans son
facteur
n'a jamais changé.
Voilà,
alors qu'Internet,
il y a 4 roues, un moteur, tu te déplaces. Et,
Internet, on est passé d'un gros ordinateur à des montres intelligentes, voire à moins, et ça changera peut-être.
Voilà, c'est.
Mais alors d'une certaine manière, Das, là-dessus, tu rejoins fibre, c'est que.
Ah ben oui, moi au départ j'étais d'accord avec lui. Hein.
D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'à un moment t'as dit après je suis plus d'accord. Mais à un moment t'étais d'accord.
Au début j'étais d'accord. Après j'ai dit non mais n'importe quoi. Comme d'habitude en fait.
Donc en fait vous êtes finalement Sylvain et Mélissa, vous pensez qu'il y a quand même une réelle pollution de technologie et Daz et Fibre qui sont d'accord.
Oui.
Ouais, ça nous arrive.
Pense qu'en fait les technologies après, ne polluent pas vraiment, qu'en fait ça va évoluer et qu'on l'acceptera.
Ouais, faut s'adapter. Ouais.
C'est bien. J'attends impatiemment la réaction de nos lecteurs là-dessus. Au-delà d'indignement en tout cas.
De nos auditeurs, tu veux dire?
Oui, c'est vrai.
Non, mais le lecteur audio.
En fait, on devrait faire tour en image, j'aurais plus d'impact sur 404. Allez, dernière FAQ pour le plaisir.
FAQ.
Toute dernière FAQ. Fred A sur Twitter nous demande: est-il juste de reprocher aux personnes âgées de ne pas se servir d'internet correctement? Lui pense à Hillary Clinton et aux dernières histoires avec Hillary Clinton. Ça me fait penser à une de tes chroniques d'Az sur ton fameux
il faut protéger nos vieux
nos parents, comme on protège nos enfants, il faut protéger nos vieux d'internet, ils sont pas prêts, ils sont trop fragiles, etc. Mais est-ce que aujourd'hui on peut est-ce qu'on doit se foutre de leur gueule parce que ça fasse manier internet, ou est-ce qu'il faut avoir une sorte de vraie compassion en disant écoutez c'était pas leur média, c'est pas grave s'ils nous appellent pour nous dire c'est quoi le clic droit.
Pour moi ça dépend en fait de l'exposition.
L'exposition,
c'est-à-dire que du temps de la durée d'exposition aux médias, c'est-à-dire que si par exemple mon père prends un exemple comme ça au pif. Mon père, en fait, qui par exemple manipulerait un ordinateur une fois tous les 8 ans, je serais très patient avec lui.
D'accord.
Maintenant, mon père qui a 12 ordinateurs chez lui,
mais qui ne tanche,
en a encore ramené un hier,
ouais.
Et qui est une véritable brêle,
ouais.
Et qui en plus ne le comprend pas qu'il est une brêle, donc ouais. Il se prend vraiment pour un chercheur du MIT. Bah là, au bout d'un moment, tu perds ta patience, tu vois.
Et là, tu l'excuses plus, donc.
Ah bah non, j'ai zéro excuse, je le laisse se démerder maintenant.
D'accord, ok. Donc pour Das, ça dépend de.
Ça dépend de du temps d'exposition aux
technologies.
À la techno.
Fibre, est-ce que tu dis faut pardonner aux anciennes générations le fait de complètement être largué sur une
technologie? Oui, complètement, parce qu'il faut pas oublier qu'Internet, ça s'apprend. Et apprendre, ça devient de plus en plus dur quand on devient vieux, je le sais, parce que je deviens vieux et j'ai beaucoup de mal à apprendre certaines choses.
Oui, c'est vrai que d'un point de vue cognitif, on est moins en moins performant.
Voilà, et vous allez voir que quand il y aura Snapchat, le prochain Snapchat qui va sortir, ça va peut-être être de plus en plus difficile.
Déjà, Snapchat, t'as parlé plus jeune d'entre nous, on a un peu.
Voilà, moi, je suis pas trop dedans.
Voilà, ouais. Mais même lui, il est un peu abandonné. Et voilà. Et je j'ouvre une mini parenthèse disant que les personnes du troisième âge sont souvent la proie de dispositifs nouvelles technologies. Je pense à Candy Crush, par exemple.
Ouais.
C'est-à-dire des jeux addictifs qui vous prennent votre carte de crédit comme des mecs qui vous démarchent, qui vous vendent des canapés téléachat.
Ah ouais, c'est
et,
vrai.
Ouais. Donc il y a quand même une vraie menace à ce niveau-là. Et
alors que Sigma Theory est lui un jeu bien plus vertueux.
On parlera de ça, mais disons que il y a les jeux vidéo, qui, enfin en tout cas voilà, ce sont des pièges addictifs qui prennent de l'argent, voilà.
D'accord.
Et aux vieux notamment.
Protégeons nos vieux. D'ailleurs, c'est vrai que sur les mobiles, la catégorie qui a le plus explosé, c'est les quinquas.
Tout à fait.
Sur les joueurs. Mélissa, est-ce que tu dis non, aujourd'hui, attends, Internet c'est important, vieux ou jeune, faut apprendre, faut s'y mettre, etc. C'est d'utilité publique. Ou est-ce que tu dis, bon, à un moment, t'as des gens, ils sont trop vieux pour ça. Soyons fatalistes. Laissons-les voguer à vue.
On aime tous trop ici Internet pour lâcher l'affaire, bon, sauf Daz. Moi, j'ai pas les mêmes parents que Daz, j'ai des parents. Bah, si, t'as lâché l'affaire pour ton père.
Mais parce que mon père est irrécupérable.
Mais du coup, moi, j'ai les parents qui sont sur Internet, mais pas trop. Du coup, quand ils reçoivent des mails de gens africains qui leur disent qu'ils ont gagné 1 million, parfois ils se disent.
Ouais.
Ils s'interrogent.
Ouais, ma maman, c'est pareil.
Mais surtout, ils vont toujours sur les mêmes sites. Et ça, c'est ça qui me tue, c'est qu'ils ont pas compris le truc de l'internet de naviguer d'un truc à un autre. Ils vont toujours sur YouTube écouter les mêmes vidéos et genre, ça
t'exaspère.
J'essaie de leur apprendre, mais ils sont pas dans ce mindset-là. Tu vois, c'est comme ils lisent Télérama.
Ouais.
Donc, ils lisent Télérama depuis 20 ans. Et ben, ils vont sur YouTube et regardent la même vidéo.
D'accord.
Ils consomment
de manière linéaire, ouais, l'internet et
j'essaye de leur apprendre de genre, ah, il y a ce site-là, et je vais leur dire un site, mais s'ils n'ont pas leurs habitudes, ils vont mettre longtemps, tu vois.
Mais Slate, c'est un mot anglais, pour ça, c'est
ouais,
dur à
taper. Mais même Slate, je sais qu'ils y vont moins que sur le monde pour faire ou
Attends, mais Mélissa, du coup, juste pour répondre à FAQ, est-ce que ça t'énerve ou est-ce qu'il faut leur pardonner?
Ok.
D'accord. Mélissa t'énerve. Et Sylvain?
Bienvenue. Moi, je ne pardonne pas à ceux qui ne font pas d'efforts ou qui ne sont pas curieux.
Voilà. D'accord.
Comme je ne me pardonnerai pas de laisser tomber Snapchat parce que c'est un truc de jeune.
D'accord. On parlait tout à l'heure du
Donc
seul 404 qui utilise Snapchat, c'est Sylvain.
T'as pas peur de tomber dans le jeunisme à outrance, justement?
Non.
C'est génial, un peu comme l'ami fait de temps en temps.
Mais il est encore jeune,
T'es passé sur Inbox ou pas?
Sur
Inbox de Gmail.
Ouais, depuis un moment, ouais.
Parce que... Ouais, il y a une chroniqueuse parmi nous qui n'en a pas fait, et donc
tous sur Inbox là.
On ne dit pas qui c'est une chroniqueuse parmi nous.
Daz, il est pas sur Inbox.
Moi, je suis sur Inbox et après je retourne sur Gmail normal pour être sûr de pas avoir loupé un mail.
Est-ce que Inbox a tous mes mails vraiment ou est-ce qu'il faut que je tienne?
J'ai l'impression de me faire couiller, je vais vérifier quand même.
Oh, tout d'accord qu'on pardonne pas Daz, ça nous énerve.
On pardonne pas Daz.
Studio 404, l'émission de société numérique.
Ah, c'était notre petite rentrée, voilà. Elle a été studieuse.
Sur 8 heures à peu près.
Non.
2h15.
On a été appliqué. Je pense qu'on s'est fait la dose suffisante de nouveaux ennemis comme prévu. Je pense qu'on a
trollé comme d'habitude.
On a dérapé, on est parti dans des choses comme prévu. On a notre hashtag qui est indignement. Hein, voilà, c'est notre hashtag indignement. Et surtout, je pense qu'on a pas mal de chroniques qui, à mon avis, appelleront à des réactions. Ah, on vous rappelle, chers auditeurs, des réactions type Facebook. On attend impatiemment sur des débats importants comme la révolution de la voiture, être de droite dure dans le futur et d'émettre matérialiser,
un Photoshop avec des mignons,
insulter des avocats, des choses comme ça, ou alors disparaître totalement. On espère que vous aurez des réactions bien short-sighted, hein, vraiment petit bras ou petite vue en tout cas. On espère en tout cas que vous avez pris du plaisir à écouter cette émission et on se retrouve promis pas dans un trimestre mais le mois prochain. Merci à tout le monde et surtout merci à Ghislain bien sûr d'avoir réalisé cette émission et d'être notre pierre d'angle, hein, qui réunit tout le monde. Et merci bien sûr à nos amis du Tank qui sont toujours là pour nous accueillir. Là ce soir on est seul au Tank, hein, on est dans le hall du Tank, il y a personne, on est tranquille.
Il est minuit.
Voilà, je tenais à dire à Damien du Tank et à Nicolas, le boss du Tank, qu'on a volé le jus de mangue. Voilà, on voulait vous le dire. Bon.
On en rachètera promis.
C'est quand même tentant. En tout cas, merci beaucoup, Tank, de nous accueillir encore pour cette nouvelle saison et on se retrouve très vite. Ciao!
Ciao!
Au revoir!